et bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec les podcasts de la rédaction. Oui, vous le savez, nous sommes heureux chaque mercredi de nous rejoindre tous autour de cette table à repasser la plus célèbre d'Internet désormais.
C'est retrouvé qui voulait dire.
C'est ça. Oui, c'est ça. Ben non, on se rejoint ici. Et puis justement, aujourd'hui, nous avons deux invités. Ça nous fait plaisir. Une petite surprise que l'on avait envie de vous offrir. À ma gauche, il s'appelle Jean Santoni. Vous le connaissez peut-être sous le pseudo de Willow à l'époque de Joypad. Comment ça va, Jean ?
Bah, ça va plutôt bien. Je suis un petit peu bourré, mais ça va.
Mais ça fait plaisir en
c'est
tout
normal.
Cas de t'avoir avec nous pour ce podcast qui va refaire eh bien, tout le bilan de l'actualité du mois de février 2009. Et tu n'es pas seul, puisque à tes côtés, tu vas pouvoir lui passer le micro. Il y a Christophe Delpierre, aka Chris Fighter, que vous connaissez bien, qui officie aujourd'hui sur Console Plus et à Pika Edition. Ça
tout,
va Chris ?
Tout à fait, ça va très bien. Merci de m'avoir invité. Je passais à côté, il y avait de la lumière.
Voilà.
C'est, tout. C'est vrai en plus.
Les gens disent toujours ça, mais finalement ça nous fait plaisir de vous ouvrir ces portes. Et je pense que derrière votre... Généralement on dit derrière votre écran, mais là non, on ne peut pas le dire. Avec votre baladeur sur iTunes ou quoi que ce soit, vous kiffez d'entendre ces deux noms qui vont commenter avec nous un petit peu les points forts de l'actualité de ce mois de février. Mais avant ça, eh bien, nous allons revenir sur deux annonces essentielles. On vous en parlait déjà la semaine dernière. On vous parlait d'un podcast événement. Eh bien, ce podcast événement, il aura lieu ce samedi 7 mars, puisque...
L'enregistrement, puisque
vous allez voir, lors du Loft In Game qui se passe donc à Paris, dans un très beau loft du quartier de Bastille, eh bien... Nous allons vous donner la parole. Oui, 15 personnes, 15 membres de Gameblog vont pouvoir être invités en exclusivité et pouvoir nous rejoindre, participer à un podcast événement. C'est la toute première fois que nous faisons ça et on est super heureux de pouvoir rendre cette chose possible. Alors, vous l'avez peut-être vu déjà, depuis hier, une petite news. La sélection, elle est très simple. Les meilleures questions qui nous seront posées, eh bien, ce sera vous que nous allons sélectionner. Donc maintenant, à vous de réfléchir à comment finalement... vous posez la meilleure question sur l'existence de Gameblog, sur les meilleurs souvenirs de Gameblog, comment la société s'est lancée ou quoi. On vous laisse libre de penser à ce que vous voulez. En tout cas, on ira nous lire dans le forum et sélectionner 15 personnes qui seront nos invités, forcément VIP, samedi 7 mars pour l'enregistrement d'un podcast événement. D'ailleurs, Raon, je te file la parole puisque je crois que tu peux nous annoncer aussi quels sont les jeux qui seront présentés. Une fois de plus en exclusivité
exact.
Dans la petite zone avec jacuzzi de Gameblog.fr.
Ce sera peut-être même d'ailleurs la première fois qu'on va présenter un jeu Wii, qui sera Mad World, et qui est peut-être le seul jeu Wii finalement qu'il y a beaucoup de gens qui attendent, je crois, en fait, finalement. Du coup.
Ça va être sain.
Oui, c'est ça.
On n'a pas réfléchi 107 ans non plus en même temps. Hein.
Mad World, ouais, mais bon. Très attendu hein, par vous, par la communauté de Gameblog. Et bah, justement, samedi, vous aurez l'occasion d'y jouer en avant-première au Loft In Game avec nous, avec Gameblog. Donc, l'occasion de faire une pierre deux coups, hein, j'ai envie de dire. Dernière annonce avant de rentrer dans le cœur du sujet de ce podcast et de revoir ensemble eh bien, toute l'actualité du mois de février. Vous êtes très nombreux à nous demander souvent, Gameblog, vous êtes des anciens de la presse papier, vous avez probablement envie de retoucher peut-être à du papier. Eh bien, sachez qu'à partir du 25 mars, eh bien, cette envie se reconcrétise, j'ai envie de dire, avec le lancement d'un nouveau magazine. Ça s'appelle In Game. Ou IG Mag, voilà. Ce n'est pas un magazine fait par nous, hein. Ce n'est pas le magazine de Gameblog, mais Gameblog y contribue. Raon, tu peux nous en parler un petit peu plus ?
Oui, donc c'est Ankama Édition qui lance ce magazine. Vous avez pu en entendre parler probablement avant. Et effectivement, c'est un magazine un peu atypique dans le sens où il n'y a pas de publicité. Il y a plein de pages.
240 pages.
Putain,
c'est vraiment plein de belles pages.
Et des belles pages, oui, parce que ça fait du très beau papier. Enfin bref, c'est
bimestriel.
Une initiative un petit peu particulière. Donc tous les deux mois. Et effectivement, vous pourrez relire ou découvrir des textes de Gameblog et des membres de la rédaction sur du beau papier dans IG Magazine dès fin mars. Voilà.
Ah bah c'est carrément même un très bel objet puisque donc c'est 240 pages, ça fait un joli pavé qui coûte, qui
500
pèse
grammes.
500 grammes,
le demi-kilo, j'ai envie de dire, de bonne saine lecture.
Ça fait longtemps qu'on
n'a
pas vu ça. Hein.
Oui c'est ça, Traz le souligne à juste titre, c'est quasiment un beau livre en fait. C'est Traz, c'est une sorte de MOOC en fait.
Oui tout à fait, mais c'était pas tout à fait ce que je voulais dire, mais en fait.
Écoute, ça me fait plaisir de t'offrir ce micro.
Non mais en fait c'est vrai, tu as tout à fait raison, c'est un jeu de mots. Ça pèse une livre et c'est un très beau livre, donc c'est parfait.
Oh là 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 là.
Car 500 grammes est égal à une livre, je vous le rappelle.
Traz de plus en plus présent sur les podcasts, à notre grande joie bien sûr.
Car quelle culture,
c'est ça. C'est le taulier hein, de ces podcasts.
Ah, la coupe du numéro 1, on peut peut-être le dire aussi, ouais. Ce sera sur Street Fighter 4.
Voilà. Exactement, donc on vous le rappelle, hein, c'est dès le 25 mars prochain dans toutes les bonnes librairies. Voilà, In Game IG Mag. Messieurs, je pense qu'il est temps, après une belle salve d'informations, de petites annonces comme ça, hein, c'était pas mal, de rentrer dans le cœur du sujet, le bilan de l'actu février 2009, vous le savez désormais. Trois choses essentielles, l'information du mois, celle que vous sélectionnez tous les samedis grâce au best-of. Vous avez sélectionné la sortie de Killzone 2, qui a fait un beau lancement. Vous pouvez retrouver le test de Raan, titre vraiment coup de poing de la PS3, Raan.
Ah bah oui, hein, quand même.
Ton rôle en belge est bien sorti là.
Ah bah oui, quand même. Oui, si, quand même. Oui, c'est encore un peu plein la gueule, effectivement. Bon, moi, j'ai quelques réserves, mais c'est vraiment très personnel comme réserve. Donc, on peut pas dire qu'en tous les cas, on n'a pas bien fait d'attendre pour avoir ça, quoi. Ça, c'est clair.
5 ans d'attente, mais effectivement, en tout cas, techniquement, ça envoie du lourd. Et puis, au niveau du FPS, ça ne révolutionne pas le genre, mais c'est quand même assez solide.
Je pense que le mode en ligne aura une bonne carrière, vraiment. Ce qui est important aussi.
En tout cas, visiblement, ça vous a captivé. Autre information qui a remporté vos suffrages, il s'agit de God of War 3, le trailer version longue. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, même quelques mois maintenant, on avait eu l'occasion de voir une bande-annonce très courte, une vingtaine de
c'était
secondes.
C'était au VG Awards, ouais.
Exactement, qui était, on va pas dire décevante, mais trop courte pour vraiment pouvoir se forger une opinion.
Décevante.
Ok, alors on balance le mot, c'était à chier. Et puis, il y a quelques semaines, eh bien, la version longue, et là, par contre, ça nous a carrément scotché. Je crois, Chris, que tu as pu le voir aussi, et que ça te laisse déjà songeur plutôt positivement.
Oui, de toute façon, il faut bien se dire que les deux premiers God of War étaient exceptionnels.
Mmh. Ouais. Franchement, et encore, le mot est faible.
On peut y rejouer maintenant, ça n'a pas vieilli du tout. Donc, voilà.
Surtout le deuxième, ouais.
Ouais, enfin, moi je trouve que les deux. Enfin, je suis en train de mélanger, mais même le premier Killzone, pour en revenir, j'aimerais bien donner un petit mot sur le premier Killzone.
Ouais.
Parce qu'il a été totalement sous-estimé, moi je trouve, à l'époque. Tout le monde a dit que c'était.
Parce que il était présenté comme le Halo Killer et tout ça.
Exactement, voilà. C'était ça le truc, c'était ça le problème, c'est que c'était censé être le Halo Killer, ce qu'il n'était pas. Mais c'était quand même un jeu avec plein de qualités. Et il est passé un petit peu inaperçu et je trouve ça très très dommage. Bon, maintenant c'est plus la peine d'y jouer, hein, forcément. Ça a pris un coup de vieux.
À côté du 2, ouais, c'est clair, pris cher.
Forcément. Mais bon, je trouve ça un petit peu dommage d'essayer de positionner un jeu.
Mais tu sais comment ça marche. Hein.
Oui, je sais bien, mais bon, là, ça, en l'occurrence, ça n'a pas marché. Bref, pour revenir sur God of War, oui, donc les deux premiers étaient exceptionnels. Et le 3, bah, a priori, ça va être une tuerie, hein, ça, c'est clair. Si ce qu'on a vu, c'est vraiment du in-game, quand il court là sur le côté de la falaise,
qui
se précipite sur le centaure. Ça va tuer.
Avec cet univers qui finalement se révèle à la fin du trailer être un énorme colosse. Enfin, vraiment, si vous ne l'avez pas vu, un titan me souffle. Fort bien, justement, Raan. Si vous ne l'avez pas vu, vraiment, on vous invite sur Gameblog. Vous tapez God of War 3, vous regardez le trailer version longue. Ça défonce, Traz.
Ouais, je voulais juste rajouter un petit truc. C'est qu'il y a eu des petites rumeurs sur le net, évidemment, par rapport au jeu. Mm-hmm. Certaines qui disaient qu'il allait sortir cette année.
Puis ça a été 2009.
Vite, cette année 2009. Ça a été vite démenti. Donc, à mon avis, ça m'étonnerait qu'il sorte cette année quand même.
En tout cas, a priori, il sortirait dans cette année fiscale 2009-2010, ce qui lui donnerait un maximum de mars 2010 pour sortir. Bon, allez, on va dire qu'on est à peu près à 12 mois de la sortie de ce titre. C'est ce qu'on pourrait dire, en tout cas. Autre information vraiment qui vous a marqué en février, Régis Fils-Aimé critique les éditeurs tiers. Alors, effectivement, c'est une information qu'on vous a relayée. Régis, qui a l'habitude de
prendre des noms et
de côté des culs. Et de ne pas mâcher ses mots, en fait, effectivement, pour ceux qui n'ont pas vu cette information, soulignait que tant que les éditeurs ne mettraient pas le meilleur sur la Wii, qui était la meilleure des consoles en termes de vente, c'est qu'ils n'auraient pas compris où se trouvait le marché. Ça a l'air comme ça un peu abrupt. À la fois, en termes de business, on ne peut que lui donner raison, quelque part.
Il a peut-être... Non, vas-y.
Caf avait envie.
Non, mais justement, les gens, il a peut-être pas réalisé que certains développeurs, ça les fait juste chier de bosser sur Wii, quoi. Et que les mecs, ils ont envie de faire des trucs jolis, et voilà, quoi.
Angel, tu veux réagir ?
Un Régis. Bah,
non, et puis surtout, en même temps, je vois pas pourquoi il se ferait chier à faire un truc joli qui coûte de l'argent et à développer et du temps. Alors qu'en sortant, les lapins crétins, un mini-jeu à la con, les mecs ils vont des jeux à l'appel.
Oh, les lapins crétins c'est quand même pas le pire, des jeux, c'est festif.
C'est pas le pire, au contraire, c'est même un jeu plutôt correct, mais je parle en termes d'investissement dans le développement, aussi bien en termes d'argent qu'en termes de ressources.
Non, mais ils font les deux, mais je crois que c'est pour ça qu'il est énervé, Régis, ça l'énerve. Régis, pardon.
Il voudrait...
Pauvre Régis, ça l'agace.
Peut-être qu'il voudrait un GTA, en fait. Ça se trouve.
S'il est frustré.
Il en a déjà un sur DS qui arrive, là. Ouais. Peut-être qu'il voudrait un GTA sur Wii.
Et oui, ça c'est même une certitude. Hein. Il est de plus en plus insistant à ce niveau-là.
Mais moi, j'aimerais bien justement qu'il y ait effectivement des mecs qui développent des jeux matures sur Wii, quoi, qu'on ait autre chose que des.
On a Mad World.
Mad World sort.
Ouais, bah, oui, heureusement.
Il y a beaucoup de personnes aussi qui disent que l'arrivée du Wii Motion Plus va peut-être changer un petit peu la donne. Parce que justement, le fait d'avoir plus de précision et donc de pouvoir développer des gameplays qui.
Plus fins, ouais.
Voilà, on se rappelle sur certains jeux qui avaient été justement un peu grévés à cause de ces problèmes de jouabilité.
C'est un add-on. Et nous connaissons tous les problèmes des add-ons sur console.
Mais sur Wii. Sur Wii, c'est...
Vu les chiffres de vente.
Avec Wii Sport 2, mec.
Ah, mais il faut que ça soit vendu en mode là.
Bah oui, bien sûr que ça soit vendu en mode.
Et Wii Sport, on rappelle, ça risque de faire un turbo célesto-cosmique carton à base de dizaines de millions d'exemples.
Ça sera à la plage en plus. Putain, à la plage, quoi, merde. Tu vas pouvoir balancer des frisbees à des chiens.
Ça se tente.
Ouais, ça se tente, en confirmation dans les semaines, dans les mois à venir. En tout cas, on attendra énormément le 3 qui revient de plus belle cette année en 2009.
En force.
Et qui risque de nous apporter pas mal de grosses annonces apparemment. On commence déjà à avoir des petits bruits de couloir auprès des éditeurs qui nous annoncent tous réserver pas mal de choses pour cette 3. On verra donc.
Petit Timico, ça ferait pas de mal. Hein.
Oh, ça serait bien. Allez, la dernière information que vous avez plébiscitée avant de passer à l'homme du mois, puis à nos coups de cœur et nos coups de gueule, ensuite les infos clés. Eh bien, c'est les 2 ans de Gameblog, le podcast événement. On va pas en faire des tonnes. Ça nous a fait, bien évidemment, à mon avis, tout autant plaisir que vous de l'écouter. C'était pour nous un grand moment de partage, de voir des AHL, Alain Hugacourt, des Bertrand Amard, des Ragal, des Lames, toutes ces piliers des TSR, ces piliers de l'histoire du jeu vidéo. On rappelle, hein, 25 grands noms, plus de 250 ans de l'histoire du jeu vidéo dans un podcast. Et ça nous a fait vraiment grand, grand plaisir de pouvoir vous offrir ce moment. Et ce sera réédité, et d'autres manières. Et vous inquiétez pas, s'il y a une certitude en tout cas, c'est que cette année, c'est beaucoup plus d'invités, bien sûr, dans les podcasts de Gameblog. Nos 2 invités qui sont là en sont l'une des preuves les plus éclatantes, ma foi.
C'est exact.
Et tout était programmé.
Exactement.
Évidemment.
Allez, on passe à l'homme du mois. L'homme du mois que nous avons retenu, c'est John Ricciello, président d'Electronic Arts. Pourquoi ? Tout simplement, première information, première citation. Nous égalerons Nintendo sur sa propre plateforme. Voilà la phrase un peu choc de Johnny.
Extraite
ouais, vraiment d'une interview assez intéressante.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on sait que là, oui, pour le moment, ça profite surtout à Nintendo et que, à part peut-être Sega, quand il y a Mario dedans, je veux dire, personne cartonne autant. Et Electronic Arts, ils bougent vachement cette année, quoi. Ils sont entre les nouvelles licences qu'ils ont lancées l'année dernière et ce qu'ils veulent faire là maintenant, je sais pas. Je trouve ça intéressant qu'il ait les coronesses, tu vois, de se dire bon bah nous on va y arriver, on va vendre autant que Nintendo sur Wii. Quoi.
Alors est-ce que c'est avoir l'envie de le faire, mais après derrière il faut pouvoir le faire. Est-ce que quelque part c'est aussi une réponse c'est pour ça que dans à sa... la phrase de Régis Fils-Aimé
dans sa citation, il parle justement du développement déjà, donc de développer des jeux, de consacrer de l'argent pour développer des jeux sur Wii de meilleure qualité.
Dédié,
voilà, ou même des adaptations, parce qu'ils ont annoncé Dead Space sur Wii.
Mais qui ne sera pas une adaptation, hein. c'est un shooter. C'est
la licence, l'exploitation licence. Quoi. Et aussi en termes de marketing, parce qu'ils savent très bien que si Nintendo vend autant, c'est parce qu'ils ont un budget marketing de ouf. Quoi.
Voilà. C'est certain. Jean ou Chris, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de l'avenir du jeu vidéo, on va dire un peu plus gamer, sur Wii?
Question piège.
Franchement, vu comme c'est parti, moi j'y crois pas trop, quoi.
Pourquoi ? Est-ce que des jeux, l'arrivée de jeux comme Mad World, par exemple, et il y en a d'autres, qui
je sais pas, le casual, ça représente une telle part de marché que je pense que les éditeurs sont pas prêts à encore abandonner ce créneau-là. Et je sais pas, hein, Mad World, ça a l'air vraiment sympa et tout, mais ça va toucher encore une tranche de joueurs hyper hardcore. Peut-être que je me trompe, hein, mais
c'est peut-être un
jeu... termes de succès, je pense que ça va être un jeu vitrine. Ouais. Voilà, la Wii, elle est capable de faire ça, parce que franchement, avec les jeux casual, il faut bien avouer qu'il y a eu un nivellement par le bas. Il y a vraiment eu un nivellement par le bas avec les jeux Wii. C'est-à-dire que tout le monde s'est mis à penser, à mon avis, il y a beaucoup d'éditeurs qui ont pensé qu'on pouvait produire des jeux avec des graphismes minimalistes et des gameplays de plus en plus minimalistes sous prétexte de casual, alors que pour moi, enfin, j'estime que le casual, c'est pas du tout ça.
Et ça trouve un peu son apogée avec un Bienvenue chez les Ch'tis, par exemple. Hein.
Voilà, exactement.
Ou son apogée, oui.
Et je sais pas si c'est bien vendu, d'ailleurs.
Pas terrible, heureusement. Ouais. Quelque part, les gens ne se font pas complètement berner.
Mais enfin... moi, j'espère qu'on retrouvera un petit équilibre, effectivement, gamer, casual. Mais enfin, je sais pas. On va voir avec Mad World ce qui se passe. Moi, j'y crois pas trop. Peut-être que je me trompe.
Ah, ça reste un jeu niche. Hein. Ça, je crois qu'on en est tous.
Ça va être un jeu niche. Hein. Mais au moins, peut-être que ça va insuffler, je sais pas, quelque chose dans le sens où les développeurs vont se dire, ouais, voilà, ils ont réussi à faire ça, ça déchire visuellement. Peut-être qu'on a, on a intérêt à se donner un coup de pied au cul parce que là, enfin sur Wii, enfin moi, je vois des trucs au secours, quoi. Enfin, des trucs qui sont indignes d'une PS1 par moment, quoi.
Ouais, genre. Voilà. Caf.
Mais encore une fois, sur la, ça va dépendre aussi du marketing et vu la plateforme. Le problème, c'est que vu qu'on touche du casual qui n'est pas forcément au courant de ce qui sort, etc., qui s'en fout finalement, s'il n'y a pas un minimum de marketing grand public, là, c'est normal que le jeu ne se vende pas. Et j'ai peur que Mario World.
C'est du matraquage qu'il faut oui. Je veux dire carrément, ouais, parce que les gens ne vont pas aller chercher de savoir si ça sort ou si ça ne sort pas.
Moi, ce qui me fait peur, c'est que Mad World ait le même avenir qu'un Okami sur Wii, qui est super bien, mais qui s'est super pas vendu. Quoi.
Mais Okami, qui était quand même néanmoins plus grand public déjà, parce qu'il n'est pas contre déconseillé au plus 18.
Ouais, ouais, bien sûr, mais tu vois,
visuellement en plus c'était
c'était super bien.
Ouais, mais justement, ils peuvent peut-être jouer là-dessus parce que s'il y a un buzz sur Mad World où les gens disent oh là là, c'est quoi ce jeu-là et c'est relayé dans la presse grand public parce que évidemment c'est quand même un jeu assez atypique, hein, même pour nous, hein, c'est atypique. Ouais. Hein. Pourtant, on connaît bien le truc. Mm-hmm. C'est quand même visuellement et par rapport à ce qu'il faut en faire, on n'en voit pas tous les jours.
Non, c'est
peut-être que ça peut faire un buzz et effectivement amener des gens qui ne jouaient pas forcément à ce genre de jeu. Hein.
En tout cas, Jean le disait à juste titre, peut-être aussi un déclic d'image, montrer que la Wii peut accueillir des jeux matures. Chris, tu avais une vision aussi que tu voulais partager avec nous.
Oui, oui, enfin rapidement, puisque moi, la Wii, depuis le début, je n'ai pas accroché, je dois bien le dire. Je n'ai jamais compris le buzz en fait, autour de cette machine. Le fait de bouger les bras pour jouer, ça m'a toujours paru très, très curieux.
Cela dit, on est deux. Hein. Non, mais moi aussi, hein, non, ça me saoule. Voilà,
c'est les deux grands sportifs.
C'est
clair.
Mais c'est l'accessibilité aussi. À des gens qui, justement, eux, par contre, sont effrayés par la multiplication du nombre de touches sur une manette. Là, le fait que ce soit simple et donc accessible,
je dis pas le contraire.
L'univers du jeu vidéo.
Le problème, c'est que souvent, c'est moins intéressant aussi. Voilà, c'est pas...
Mais sauf que comme ils n'ont pas d'expérience de point de comparaison...
Et c'est moins précis. Oui, non, mais... Ouais. Non, on est d'accord. En tout cas, pour revenir à Mad World, moi, j'ai eu la chance d'y jouer. Là, j'y ai beaucoup joué. Donc, effectivement, le jeu va très, très, très loin. Et je pense que là, ça va être une vraie rupture. C'est clair, au niveau des commentaires, au niveau de la violence graphique, au niveau de tout, ça va... C'est jamais allé aussi loin, même avec No More Heroes. Hein. Ouais. No More Heroes, c'est gentil à côté, même si on avait
une version
censurée.
No More Heroes,
c'était
barré plutôt, mais pas...
Oui, c'était plus fou, voilà. Ouais. Et en fait, mais ce qui est bien avec Mad World, c'est que ça désamorce quand même le côté violence et gore. Ça va tellement loin qu'en fait, ça fait rire les gens. J'ai tenté l'expérience, hein, j'ai essayé ça avec des femmes.
Avec des femmes qui
plein
sont
de
pas
femmes.
Avec des femmes qui en plus sont pas gameuses. Hein,
exactement.
À la base, hein.
Donc des femmes adultes, tout ça.
Mais est-ce que tu rentres dans le grotesque, c'est de la. C'est
et en fait,
de
voilà, et ça marche immédiatement, c'est-à-dire que dès la prise en main, au bout de 10 secondes, elle coupe le premier personnage en deux avec la tronçonneuse et ça la fait rire.
Donc, alors ce n'est pas n'importe quelle femme non plus, tu as précisé.
Ça c'est parce qu'elle sortait de prison.
Les relations de Chris sont de bonne aloi.
Bref.
Ouais, mais...
Bon, en tout cas, c'est pour dire qu'effectivement, ça va être une vraie rupture. Il faudra voir. Moi, je suis vraiment très, très curieux de voir s'il va fonctionner. Je pense qu'il va fonctionner mieux qu'un Okami. Parce que Okami, je ne sais pas pourquoi, c'est un peu idiot. Mais tant qu'on n'est pas forcé d'y jouer, le jeu ne nous attire pas. Alors, ne me demandez pas pourquoi.
Genre...
Il faut aimer les chiens. Quoi.
Merci Jean-Santoni.
Moi, je ne suis pas certain qu'Okami soit si facile à comprendre que Mad World, par exemple.
Oui, il est très accessible, Mad World.
Mad World, en fait, tu te dis, moi, voilà, c'est un jeu vidéo, tu défonces des mecs et basta, quoi. Mmh, les gens comprennent tout de suite, quoi.
Et un truc important avec Mad World, que je place de façon subtile, c'est que le scénario est très intéressant.
C'est pas vrai.
Si, non, je vous assure, le scénario, c'est pas...
C'est une
pas...
mise en abîme de la crise actuelle avec titrisation des cas, c'est ça, en fait.
Eh bah, ben écoute, quasiment, j'ai envie de dire. Non, c'est pas tout à fait ça, mais...
Le boss final, c'est Jean-Pierre Gaillard.
ça aurait été drôle.
De lui défoncer sa gueule.
Non, mais vraiment, ils ont fait...
Ah oui, c'est conseil à la con.
Ils ont fait un réel effort sur le scénario et tu suis le scénario avec plaisir et tu découvres des choses au fur et à mesure jusqu'à la fin.
D'accord. Je tiens à préciser, si l'un des membres de la famille de Jean-Pierre Gaillard nous écoute, que je n'ai rien contre lui, à part qu'il y a 10 ans, il m'a fait perdre 30 000 euros. C'est pour ça, en bourse, c'est pour ça que je lui en veux un peu. Hein. C'est juste pour ça. Véridique. Voilà. C'était donc John Ricciatiello, notre homme du mois. Electronic Arts, qui a eu d'autres annonces assez intéressantes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en a parlé. Qui ont admis qu'ils s'étaient un peu ratés cette année, qu'ils n'avaient pas sorti de gros hits, en tout cas en termes de performance. Et Raon, je reprenais ce que tu disais tout à l'heure sur comment savoir faire du bon marketing pour aider des grands jeux.
EA qui cette année vraiment a souligné à quel point il fallait faire de bons jeux mais aussi bien savoir les vendre, ce qu'ils savaient faire par le passé. C'est vrai qu'ils ont été peut-être un peu moins forts en communication cette année. Ah, et surtout,
ils ont eu beaucoup de concurrence aussi, hein.
Voilà, c'est là où je voulais en venir effectivement. Et surtout, ils ont annoncé quelque chose qui nous à Gameblog nous a vraiment fait plaisir. On en avait parlé lors du podcast anniversaire, on avait souligné peut-être cette hypothèse qu'il ne fallait pas sortir tous les gros blockbusters en même temps à Noël, et qu'à l'image du cinéma où les blockbusters sortent l'été mais il y a quand même des très bons films qui sortent le reste de l'année, et bien peut-être dispatcher un peu mieux les choses.
Ah, échelonner le calendrier.
Voilà, échelonner tout à fait le calendrier. Et bien Electronic Arts visiblement est assez proche de cette vision là puisqu'ils ont déclaré globalement qu'il n'y avait pas que Noël dans la vie, et qu'à l'avenir ils réfléchiraient à l'image du cinéma à dispatcher un petit peu mieux les gros titres pour pas se retrouver avec des embouteillages qui portent préjudice à des titres comme Dead Space,
oui, puis à tous les Mirror's éditeurs Edge.
Voilà, parce que tout le monde ne peut pas acheter qu'un jeu en deux mois. Angel.
En même temps, t'as pas besoin d'être un génie du marketing pour comprendre ça, quoi. Non mais tu vois, c'est comme dire, dis donc, alors on s'est rendu compte qu'en fait le feu ça brûlait, du coup on va essayer de pas mettre la main.
À la fois, j'ai envie de dire que je suis d'accord avec toi, mais que le jeu vidéo a 30 ans et que visiblement jusqu'à présent, ça fait 30 ans que c'est toujours comme ça. Hein. Tous les blockbusters, c'est octobre, novembre, décembre, c'est fini.
Ouais, non mais d'accord, mais bon, ils ont les calendriers au bout d'un moment et des gens plutôt compétents, tu vois. Enfin, que le média soit jeune ou pas, ça les empêche pas d'avoir un cerveau.
Bah visiblement, en tout cas, les sorties réussies d'un GTA en milieu d'année, la sortie très prochaine de Resident Evil 5 le 13 mars, qui n'est donc pas un blockbuster de fin d'année, bah visiblement fait tilter un peu, bouger les esprits. D'ailleurs, j'en profite pour dire à tous ceux, à répondre à ceux qui dans le forum du dernier podcast soulignaient pourquoi vous n'avez pas parlé de Resident Evil 5 dans ce dernier podcast sur les tests et avant-premières. Tout simplement car nous avons signé un NDA, ce qui est donc quelque chose qui nous interdit de parler du jeu avant le 9 mars, et que bien évidemment nous respectons nos engagements. Donc les prochaines... On sait ce qu'on a envie de vous dire sur Resident Evil 5, mais on n'a pas le droit. Donc à partir du 9 mars sur gameblog.fr, vous aurez le test. Voilà, vous savez tout.
Sinon, c'est un petit mot pour les sorties multiples de Hit au même moment. Il y a peut-être aussi un problème d'exercice fiscal et tout ça. Donc,
aussi.
Voilà. Ça joue pas mal, ça.
On rappelle que les fins d'année fiscales, hein, pour la plupart des sociétés, ça se finit en mars, hein, fin mars, et que du coup, bah, c'est là où on fait un peu les bilans et qu'il faut voir où est-ce qu'on en a trace. Je te voyais prendre le micro.
Ouais, alors.
D'accord.
Non, je déconne. Non, ce que je voulais ajouter par rapport, ce que je voulais ajouter par rapport à ça, c'est qu'effectivement.
Oh merde.
Même si les jeux s'étalent, enfin, de plus en plus toute l'année.
Oui.
Faut pas rêver. Les jeux se vendront surtout à la fin de l'année, quoi. À Noël, en décembre, parce que effectivement, il y a tous les gens les achètent, les grands-mères, les mères, pour leurs enfants, etc.
Mais c'est vrai que Nintendo est aussi en train de montrer qu'il y a une vie pour des jeux. Généralement, les gros titres, ça se vendait toujours sur un, deux mois maximum, puis après c'est fini. Hein. Le jeu n'existe plus. Et Nintendo, avec des titres comme Kawashima, avec Wii Fit ou quoi que ce soit, montre que les jeux peuvent se vendre pendant un an, voire plus. Un Nintendo se vend toujours. Hein.
Ouais. Professeur Layton sur DS, Professeur Layton continue à se vendre.
Ouais, les longues, c'est Mario Kart et Mario Galaxy un an après la sortie du
Bien
jeu.
Sûr.
Sans problème pour eux.
Ah, Chris nous précise que la Wii, c'est spécial.
Oui, non, pardon, je disais juste que la Wii, c'est un petit peu spécial. On peut pas comparer ça avec la PS3 ou la 360, c'est pas le même public, ça marche pas de la même façon.
Ah, on est d'accord.
Ouais, mais je pense qu'avec un petit peu de marketing onctueux et
une de pétrodollars.
Ouais, non, mais une approche différente du jeu vidéo et de ce média en général, on pourrait globalement intéresser d'autres gens, parce qu'il n'y a pas de raison que tout le monde s'intéresse à Kawashima et s'intéresse pas à d'excellents jeux comme Braid, justement. Braid, c'est notre
transition.
Coup de cœur. Voilà, on arrive dans la section des coups de cœur. Et donc, Raon, je me tourne vers toi, puisque Braid, on va pas en reparler, vous savez désormais quel est ce titre, mais il s'est passé quelque chose là récemment.
Bah ouais,
qui revient dans l'actu.
Il est soldé, quoi, à 800 Microsoft Points. Donc, il n'y a vraiment plus aucune raison de ne pas le prendre.
Ça fait combien en vrai brousouf?
En vrai brousouf, ça fait 7 euros, un truc comme ça.
Bon, ça va.
J'ai pas une calculette MS Points dans la tête, mais...
Donc, il faut faire très attention parce que c'est une offre temporaire. Donc,
profitez-en.
Ruez-vous dessus si c'est encore le cas. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que comme ça, il y a des soldes de bons jeux. Ça, c'est intéressant. Chris?
Oui, je m'excuse, j'interviens encore.
Mais t'es là pour ça.
Hein. Non, je voulais juste dire que pour Braid, effectivement, si vous ne l'avez pas acheté, faites-le tout de suite. Franchement, c'est incroyable.
Voilà, sinon, vous allez mourir d'une descente d'organes.
Non, mais sinon, forcément, enfin, vous ne méritez plus de jouer aux jeux vidéo. Et un truc que je voudrais dire...
Il a raison.
C'est que y a un truc, je dois être idiot, mais moi, quand j'ai acheté Braid, j'ai vu sur le live, j'ai vu Raon et Angèle qui l'avaient terminé avec 60, enfin tout. Et moi, je n'ai toujours pas fini.
Ça fait super mal, c'est pour ça que je ne l'achète pas. Et si je l'achète, j'achèterai sur une plateforme où personne ne peut traquer mes achievements.
Ouais,
comme ça, si je n'y arrive pas, personne ne sort au courant.
Sur Xbox Live, tu peux te cacher hein, bah oui. Au niveau des achievements.
Ok, je vais, voilà. Je vais faire ça tout de suite.
Donc voilà, bravo les mecs. Moi, je comprends pas les gens qui le finissent en 6-7 heures. Bravo, parce que moi, j'ai peiné pendant une ou deux heures sur certains tableaux. Au secours.
Ouais, Jean.
Chris, moi aussi, j'ai peiné, je te rassure.
Ouais, pour jouer à ce jeu-là, c'est pour ça.
Mais non.
Non.
Ou avoir un cerveau.
Un cerveau.
Chacun fera son choix. Un autre jeu.
C'était bourré. Hein.
Pour manger ça, je peux te le dire. Hein. En tout cas, clairement.
Je crois bien que je l'ai fini avant toi.
Parce que t'étais super bourré.
Ah bah écoute.
Bon, écoutez, on ne saura pas. On essaiera de vous donner la réponse la semaine prochaine. un autre jeu vraiment coup de cœur, sorti en février 2009 et dans la même veine de Braid, qui est créatif, talentueux et intéressant. Flower, je crois qu'il a fait l'unanimité aussi ici. Traz, t'as pu y jouer. Je crois que Chris aussi, moi, je vous en parle même pas.
Je crois qu'on y a tous joué, mais pas autant que toi, Julien, oui, c'est certain.
Moi, je n'en sais rien.
Mais effectivement, comme Chris le disait tout à l'heure en aparté en cachette, bah il a adoré aussi. Moi c'est pareil, je l'ai pas encore fini parce que j'ai d'autres trucs à faire à côté hein. Mais
dès qu'il y a cette vidéo à rendre,
voilà, hein. Mais à chaque fois que j'y reviens effectivement c'est vraiment un bonheur, ça change complètement de ce qu'il y a et
n'est-ce et pas voilà, peut-être l'archétype même du jeu multigénérationnel unisexe, enfin tout le monde peut s'y essayer, ça dure 2 minutes ou 5 heures.
Exactement.
C'est un voyage, quoi.
J'ai rien à dire, sauf que je suis d'accord avec toi.
Formidable. Donc là, une fois de plus, hein, Flower, il n'est pas soldé, mais il ne coûte que 7,99€.
Ouais, c'est
donc, ça. Autrement, vous dire, rien du tout. Hein, 10 fois moins qu'un jeu traditionnel. Et pourtant, il procure un plaisir. Comment dire ? Bah ouais, j'avais envie de trouver autre chose.
Ineffable,
bucolique aussi.
Voilà, je veux un plaisir chamarré, j'ai envie de dire, ça ne veut rien dire.
Bucolico.
Non, mais cosmique. C'est vraiment extraordinaire. C'est jouez-y, faites-y jouer votre nana, essayez à plusieurs.
Vos maîtresses.
C'est extraordinaire.
Vos
c'est,
mecs.
Pour moi, c'est le chef-d'œuvre de ce début d'année, très clairement. Dernier coup de cœur de la rédaction de Gameblog en février, CAF, il s'agit de, ben justement de ces jeux qu'on peut trouver un peu moins chers, moins de 75€ pour un Street Fighter 4 ou un Killzone 2, et ben c'est possible aujourd'hui.
Ben c'est même les deux en fait, c'est parce que c'est une news qui, moi j'étais au courant, je me suis dit tiens on va faire la news parce que finalement on en parle sur les forums de Gameblog mais on ne l'a jamais annoncé en news, c'est qu'effectivement en Angleterre, maintenant avec l'Europe tout ça, il n'y a plus de frais de douane, et en Angleterre et dans d'autres pays, mais surtout en Angleterre pour une raison que j'expliquerai dans une seconde, on peut trouver des sites web qui vendent des jeux qui viennent de sortir pour 30-35€ frais de port compris. Ça veut dire que là par exemple, pour donner un exemple concret, j'ai acheté Street Fighter 4 et Killzone 2 sur la même commande et ça me coûte donc 72€ pour deux blockbusters qui coûtent 70€ pièce en France. Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement ce sont des sites web déjà, ensuite parce qu'ils font de la gestion de stock, mais c'est surtout parce qu'ils ont une loi fiscale, on va dire, un petit peu plus laxiste. C'est pas vraiment en Angleterre, c'est sur les îles qui sont juste à côté avec des régimes fiscaux super avantageux. Ouais. Ça fonctionne, ça arrive. Un des sites en question, c'est quand même Amazon version anglaise, donc c'est pas non plus des mecs dans une arrière-boutique pakistanaise, hein. Tout va bien. Je n'ai rien contre les Pakistanais, mais franchement, c'est un bon plan. Il y a encore plein de gens qui ne le savent pas. Et je pense que, en toute amitié avec nos amis éditeurs, il est temps de leur faire comprendre que 70€ pour un jeu vidéo, c'est trop, point, barre. Et qu'à 35, 40, 45, 50€, on peut discuter. Mais 70, non.
Angel, tu veux réagir ?
Non, mais ça vient aussi du fait que la livre s'est méchamment cassée la gueule.
C'est les deux additionnés.
C'est-à-dire, c'est un cumul des deux. C'est-à-dire, si demain la livre remonte au niveau où elle était bah, avant la crise,
bien sûr.
Avant la crise, ça redeviendra vachement moins intéressant.
Sauf que les sites donc comme Play.com, par exemple, sont quand même sur des régimes fiscaux hallucinants, ce qui fait qu'ils ont vachement, vachement moins de taxes. Et ça leur donne un avantage. Avant la crise, ils étaient déjà un peu moins chers, mais c'est vrai qu'entre économiser une dizaine d'euros et avoir le jeu directement au coin de la rue, bon, si on était un peu pressé, voilà. J'ai attendu une semaine pour avoir Street Fighter 4, c'était dur, vraiment.
J'ai envie de dire qu'à la fois, tu l'attendais depuis 91 presque. Depuis
ouais, c'est pas faux, donc je me suis dit 10 jours de plus, c'est pas grave quoi.
C'est pas grand
mais
chose.
Mais bon, regardez, vérifiez, allez sur les forums de Gameblog, il y a un thread dédié à comment acheter ces jeux moins chers, etc., fait par les lecteurs de Gameblog. Par
nos lecteurs. Par,
et ben, qui vaut son pesant de cacahuètes, où j'ai même appris encore plus de choses que dans ma news. Voilà, ils sont
très incroyable. Et puis une fois de plus, on le répétera jamais assez, c'est pas le prix d'un jeu qui en fait sa qualité, hein, des exemples comme Braid ou Flower.
Voilà, bien sûr.
C'est sa pochette.
Bah, ça tombe bien, ils ont pas de pochette ceux-là. Les Braid et Flower. Donc bon, la qualité d'un jeu, l'innovation avant tout. Raon, je me tourne vers toi sur notre dernier coup de cœur. C'est une sorte de clin d'œil. Hein. L'annulation de la Game Convention en 2009, il n'y en aura pas. Hein. Bah,
ah
non,
ouais,
mort.
Cool, on n'ira pas là.
Fini la Siege.
Adieu, je ne fais plus retourner là-bas.
Pourquoi ? Parce qu'on entend beaucoup de personnes dire ça, mais c'était quoi ? C'était mal organisé ? C'était...
Non, c'était Leipzig. Je préfère revenir au bon vieil E3. Enfin, tout ça, ça fait partie de la même nouvelle. Tu vois, la renaissance un petit peu l'E3. On verra ce que ça donnera, mais... 3 milliards de salons compressés sur 2 ou 3 mois, c'est
plus vraiment
c'est
aucune chiant, surprise, c'est ni fatigant, dans l'un ni dans l'autre.
Voilà, les gens savent plus quoi annoncer, quand, c'est relou quoi. Voilà, donc je suis content moi.
Traz,
mais tu crois vraiment Raon que avec la crise actuelle, le salon E3 va renaître de ses cendres comme à l'époque ? J'ai un peu de doute moi. À l'époque où je croisais Arnold de Arnold et Willy.
Oui, c'est Non mais
c'est la grande classe, il faut dire. Il s'est fait tous les E3, je crois.
Oui, c'est ça.
Ah, il est trop fort.
Mais il était
trop
fort. Ouais.
Mais est-ce qu'il y aura encore tout ça, justement ? Tout ce côté un peu.
Ouais, il est peut-être mort en plus.
Côté un peu show-off ?
Show-off, tout ça. J'allais dire folklorique, mais c'est pas gentil pour lui.
A priori, les éditeurs disent que c'est un vrai retour et qu'ils vont investir en tout cas cette année dessus. Hein. Donc on va voir. Hein,
parce que franchement, vu l'amorosité ambiante et la frilosité de pas mal de gens, je suis un peu étonné. Mais bon, pourquoi pas.
Ça peut-être un oasis de bonheur dans cet océan de tristesse.
Oui, puis comme ils n'auront pas à dépenser pour la Games Convention non plus, ils peuvent mettre des thunes en plus sur l'E3. Hein, donc, voilà.
On verra ça. On verra ça. Allez, on passe maintenant à nos coups de gueule. Les coups de gueule, vous allez voir. Le premier, bon, il nous fait un petit sourire, un peu sourire. C'est pas un coup de gueule vraiment méchant, mais quand même, le Quake Live Open Beta, on trouve ça plutôt chouette, CAF.
Ah, c'est
mortel.
Il y a
un petit souci.
Bah, en fait, on voudrait bien y jouer.
C'est ça, voilà.
En fait, ils ont ouvert avec, je rappelle que c'est un petit projet au sein d'ID Software, qu'il y a 8 développeurs, 4 contracteurs, donc 4 des freelances pour les aider. Et bah, ils ont un petit souci, c'est que c'est pas un MMO, c'est un shoot, c'est un FPS, mais qui s'approche de l'infrastructure d'un MMO, donc en temps de nécessité, vu qu'il y a plein de gens à faire jouer en ligne, etc. Bah, ils n'ont pas prévu assez de machines, tout bêtement. Et comme c'est une petite équipe et un petit budget, ils ne sont pas non plus en train de dire on va acheter 54 000 serveurs, on va ouvrir un data center et tout. C'est juste pas possible. Donc on va continuer à faire la queue pour jouer à Quake Live pendant un petit moment, le temps que les gens qui finalement ne veulent pas y jouer réellement se barrent et que le produit prenne sa vitesse de croisière. Donc
vous
c'est un
êtes 628e millième dans la queue.
J'ai quand même fait un record là. 628 000 mecs avant moi, ça faisait beaucoup. Généralement, c'est 30, 50, entre 30 et 50.
Donc pour le jouer le week-end, tu ouvres ton browser le mardi. Hein,
voilà, exactement. Et après, t'attends.
Voilà.
Et si ton browser plante ou qu'il y a une mise à jour, il faut relancer. Et il faut relancer et tu refais la queue.
C'est pas évident. Angel ?
Moi, pendant un jour de la semaine, à midi à peu près, je crois qu'il était entre midi et 14h, j'étais 7 millième. J'ai attendu entre 10 et 15 minutes, pas plus.
Ouais, voilà. Mais entre midi et 14h, t'as un avantage extraordinaire. Les ricains.
Ouais, voilà.
Et ça, c'est bonheur.
Oui, mais justement, on est en France, donc finalement, c'est pas non plus si un job que ça.
Non, carrément. Mais voilà. Cela dit, en plus,
et c'est super impressionnant.
C'est plus impressionnant en termes d'application web ou en jeu vidéo, parce que c'est Quake 3, il est de 99. Mais c'est vraiment béton à jouer. C'est gratos. Et ça va être gratuit. Et les panneaux de pub sont super bien planqués. À tel point qu'en plus, c'est Quake. Autant vous dire, vous n'allez pas beaucoup les voir, les panneaux de pub.
Ah oui.
Voilà, donc le coup de cœur, vous l'aurez compris. On adore ce jeu. On aimerait y jouer un peu plus facilement. Hein, c'est un peu l'idée. Là, par contre, un vrai coup de gueule, il s'agit de cette nouvelle maladie du jeu vidéo, enfin cette première maladie du jeu vidéo, la palmarée PlayStation Hidradenitis qui nous vient de Suisse. Traz, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? C'est juste surréaliste.
Bah, c'est assez surréaliste, ouais, mais c'est vrai que quand je l'ai écrite, je me suis demandé si c'était pas du bipo, il n'y avait pas un canular derrière, un gros hoax de la mort.
Et non.
Et c'est vraiment, vraiment vrai. La preuve, tous les grands journaux, tous les grands médias en ont...
Bon, ça veut rien dire.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Quand t'entends ça dans le 20h, c'est que quand même les mecs ils ont.
T'es sur France 2.
Oui.
En Palestine.
Ok, ça c'est pas moi qui l'ai dit. Hein.
Pardon.
Non, mais évidemment qu'ils se plantent aussi, mais bon, en général.
Bon, ce genre en l'occurrence, ça c'est vrai.
On peut vérifier, voilà, il n'y a pas de souci, surtout que ça a été dans le British Journal of Dermatology. Donc c'est quand même un truc très sérieux, visiblement. Mais je pense franchement que le professeur Vincent Biguet des hôpitaux universitaires de Genève, à mon avis, s'est fait un gros coup de pub de la mort sur un truc complètement débile.
On rappelle un peu la maladie ? En quoi il s'agit de quoi ?
Bah, c'est à force de jouer avec une manette, soi-disant, une manette PlayStation, très précisément, d'où le nom, je pense, quoique je ne suis même pas sûr. La petite fille en question a vu des rougeurs énormes sur ses mains et donc les professeurs après moult examens en ont conclu qu'elle
était allergique au plastique.
Oui, c'est peut-être la force de jouer aux jeux vidéo, tout simplement. C'est aussi con que ça.
Chris.
Un truc que je comprends pas, j'ai suivi un petit peu ça de loin. C'est sur les mains ou
sur la paume des mains. Sur la paume
des mains, d'accord.
Ouais, tout à fait.
Mais enfin, je veux dire, si tu te frottes avec n'importe quoi, tu as une irritation.
Ça t'a pas
fait. Mais là, apparemment, c'était vraiment parce qu'elle y jouait sans doute sous sa couette, elle transpirait à mort.
Alors,
donc,
attendez, messieurs, j'aimerais juste que vous, chacun, vous montriez un petit peu la paume de vos mains, parce que, comment dire, vous n'êtes pas du tout des joueurs chevronnés.
Bon, c'est pas très visuel, mais en tout cas, je vois
à peu près zéro rougeur, voilà. Alors que pourtant, ces hommes passent des heures depuis des décennies.
Moi, j'en ai, mais c'est pour une toute autre raison.
Que nous ne commenterons pas.
Exact.
Mais donc, voilà, attention.
C'est la force de mettre des claques sur les fesses.
Voilà.
Et putain, la maladie des jeux vidéo.
Donc,
je veux dire,
un gros coup de gueule pour un gros coup de pub de ce monsieur Biguet, soi-disant professeur. Mais bon, voilà, il est content. Il a placé son nom à côté d'une nouvelle maladie. Donc, il va passer à la postérité.
Et puis, l'intrusion du mot PlayStation à l'intérieur, c'est comme si ça résumait tout le jeu vidéo aussi. C'est un peu étonnant.
Ça, c'est surréaliste aussi.
Visiblement, il y a des gens qui n'ont pas encore tout compris. Voilà, c'était notre coup de gueule du mois. Maintenant, on va passer aux informations clés qui ont fait un petit peu toute l'actualité de ce mois de février, qui a franchement été un mois très, très riche, finalement.
Pour un mois de février.
Ouais, pour un mois de février, retour de l'actualité assez forte. On le sait, hein, au mois de mars, il y a pas mal de grosses sorties. Bah, visiblement, les éditeurs, en tout cas, sont en train de lâcher un peu les vannes. Et justement, on a pu découvrir les deux premières bandes-annonces de deux jeux très attendus de la part de Capcom. L'un s'appelle Dead Rising 2 et l'autre Lost Planet 2. Et alors, on va d'abord commencer avec Lost Planet 2 parce que c'est une grosse claque. Chris, je crois que tu as pu le voir. Le premier était déjà très bon. Le second, ça s'annonce excellent.
Ouais, enfin moi, j'ai vu effectivement le trailer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils utilisent le moteur de Capcom qui s'appelle le MT Framework 2 ou quelque chose comme ça.
Qui sert sur Resident Evil 5.
Il sert sur le 5. Je ne savais pas s'il servait pour Resident. Bon, bah voilà.
Mais c'est une version optimisée pour ce Lost Planet 2.
Et voilà, je savais qu'il y avait quelque chose. Donc voilà, non, a priori, c'est vraiment très très impressionnant. J'ai l'impression que c'est du niveau d'un Gears 2. Ouais. Donc ça peut faire très très mal. Maintenant, bon, faut voir. Faut aimer les mechas, faut aimer les insectes, machin. Bon.
J'espère qu'il sera un peu plus optimisé sur PC que son grand frère.
Non, tu rêves.
Ah, oui. Merci.
Mais il y a quand même pas mal de nouveautés. La première, c'est la disparition globale, en tout cas dans cette bande-annonce, de la neige, qui était le décor principal du premier épisode. Là, c'est plutôt ambiance jungle, puisque ça se passe.
Il y a des jungles et des rivières.
Années après.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu, c'est ça, il y a un réchauffement climatique, mais le truc aussi qui est, à mon avis, le plus intéressant surtout, c'est que c'est très axé coop et il y aura du coop à 4. Ouais. Alors c'est très à la mode le coopératif évidemment, mais moi je suis toujours preneur. Quoi.
Mais c'est vachement bien.
Voilà.
En tout cas, visiblement, Capcom a pris aussi son temps pour développer cette suite et elle s'annonce bigger, better, badass. J'ai envie
more
de dire.
Badass, ouais.
Oui, more badass, parce que c'est un peu leur thématique à eux aussi.
Ouais, ouais.
Des monstres, mais gargantuesques, gigantesques, extraordinaires. Ouais, ouais. Plusieurs écrans
c'était
de haut.
C'était déjà le cas dans le premier, mais là,
monstrueux,
ils sont
oui, Angel. Non, franchement, ça, visuellement, ça déboîte.
Bah, ils ont fait, en tous les cas, si on s'en tient à ce qu'ils ont montré dans la vidéo, ils ont fait ce qu'il fallait pour qu'on soit accroché, oui, ça c'est sûr.
Clairement, pour ceux qui ont une Xbox...
C'est produit d'ailleurs par le Jun Takeuchi, qui est le producteur de Resident 5. Ouais. Et c'est le même directeur de jeu que le premier, donc a priori, c'est des personnes qui savent bosser. Hein.
Exactement, le trailer, vous pouvez, si vous ne l'avez pas encore découvert, sur gameblog.fr, bien sûr. Dead Rising 2 aussi, le premier avait été plutôt bon, une belle surprise sur Xbox 360. Celui-là, encore plus de personnes. Il n'est pas développé par les Japonais directement. Il est développé au Québec par Blue Castle. Et puis alors là, c'est encore plus de zombies. On les voit. Hein, ça se passe cette fois-ci à Los Angeles avec cette séquence incroyable dans une espèce de boule là de où on met des petits ratons laveurs là et on roule sur les zombies. Sauf qu'il y en a des centaines à l'écran.
Hamster.
Oui, voilà, c'est ça.
Non, c'est tout. Je voulais juste préciser l'hamster.
Très bien. Ok.
C'était un jeu de sortie pour la 360 le premier quoi. Donc ouais. ils ont eu le temps de progresser quand même.
Ouais, et puis enfin pareil, c'est un jeu qui joue la carte de la dérision, donc c'est bien de donner encore plus dans la surenchère. Là pour le coup, ça justifie quand c'est un jeu vraiment débile au départ, enfin plus ou moins débile, c'est bien d'en faire encore plus. Voilà.
Effectivement, allez, là on était plutôt sur la Xbox 360 puisque pour l'instant ces titres sont annoncés sur Xbox 360, ils n'ont pas encore été annoncés sur PS3 d'ailleurs, c'est pour ça que le net est en ébullition.
Capcom a dit depuis longtemps qu'ils abandonnaient les exclus. Donc,
Lost Planet 2 exclu plus ou moins confirmé quand même.
Bah, plus ou moins, mais ouais. Rien n'est officiel encore, donc ouais. on va suivre ça et effectivement quand on connaît Capcom, ça nous étonnerait, mais à la fois, c'est vrai que pour l'instant, ils n'ont pas démenti le fait que ce n'était que sur Xbox 360. On rappelle que le trailer n'a été mis à disposition que sur le Xbox Live.
Ils attendent le chèque de Microsoft pour voir s'il est assez gros.
Oui. De Sony, tu veux dire ?
Non, Microsoft.
Ah oui, oui, bah, oui. Pour les remercier, en gros. C'est un peu l'idée. Voilà. Allez, justement, là, on quitte un peu la Xbox 360 pour aller du côté de chez Sony avec la PlayStation 3. Ça fait des mois hein, que vous êtes probablement nombreux à attendre et appeler de vos voeux une baisse de prix de la PS3. Et ben, ça commence à se préciser un petit peu, Traz. Janko Partners évoquerait même une baisse de prix de 100 euros, mais avec une PS3 sans Blu-ray.
Oui, alors je ne sais pas exactement si ce prix-là, pour ce prix-là, ça prend en compte le fait d'avoir le Blu-ray ou pas, parce que ce n'est pas précisé. Mm-hmm. Mais effectivement, c'est ce que se dit, c'est ce que se dit un certain Mike Ickey, donc de Django Partners. Et un prix qui serait de 100$ en moins, ce qui ferait 199$, ce qui la mettrait au même prix que l'Xbox 360 quasiment.
Mais ce qui sous-entend surtout énormément de choses, parce que qui dit absence de Blu-ray dit nouvelle manière d'obtenir les jeux, puisqu'ils sont tous sur Blu-ray, et c'est là où ça devient donc complètement dématérialisé.
C'est vraiment deux infos en une. Quoi. C'est d'un côté la baisse du prix sur une console comme ça, et certainement après peut-être avec une absence de Blu-ray, mais franchement j'y crois pas trop ça.
Raon, est-ce que c'est possible ça d'imaginer la PS3 qui passerait en tout cas sur ce modèle, sur de la dématérialisation totale et les jeux à télécharger via PlayStation Network?
J'y crois pas un seul instant pour le moment.
Ouais. Pareil.
Voilà,
À terme, moi je pense qu'effectivement c'est ce qu'ils vont faire de toute façon. Parce que
ouais, mais à terme c'est,
tout le monde y viendra.
C'est dans des années.
Mais ça peut être dans 5 ans.
Deux ans,
moi,
3 ans,
moi mon avis d'expert, c'est que l'expert a dit une énorme connerie.
Voilà. Mais alors souvent les experts disent des choses alors qui se produisent peut-être pas tout de suite, mais souvent parce qu'ils ont eu des fuites ou des annonces. Oui. C'est peut-être en tout cas quelque chose qui est dans l'esprit de Sony. Et est-ce qu'il n'aurait pas confondu lui avec ce qui est en train de se passer et de se dévoiler sur la PSP2, où là les choses ont l'air quand même de se préciser assez fortement, avec une PSP2 qui serait beaucoup plus avancée qu'on ne le croirait, selon David Perry, le bien nommé David Perry, que vous connaissez, hein, les Earthworm Jim, des titres assez barrés, la PSP2 arriverait carrément cet automne avec peut-être un écran qui coulisse, mais surtout l'absence totale du MD et un modèle de distribution proche de l'iPhone, donc complètement dématérialisé, et on téléchargerait ces jeux numériquement.
C'est plus crédible techniquement sur une PSP déjà, parce qu'il y aura moins de données, je pense, sur une portable que sur une PS3 à véhiculer. Mais t'imagines un jeu comme, je sais pas moi, tu prends n'importe quel blockbuster PS3, Zone 2 ou n'importe quoi, mais c'est des gigas et des gigas et des gigas de données. Quoi, donc,
c'est juste pas possible.
Même quand t'as un putain de tuyau, laisse tomber.
Alors que ça se pirate très bien, les jeux PSP, donc ça se télécharge. Tu vois, je veux dire, techniquement, voilà. On le sait, ça marche.
Donc, à mon il y en a qui font déjà, oui, c'est sûr.
À mon avis, sur la PSP, puis en plus, faut être clair, la PSP, les UMD, s'il y en a plus, ça manquera pas à grand monde. Non. C'était lent, tout à fait. C'était pas très intéressant. Donc,
d'ailleurs, la DSi...
Ça coûte cher, en plus.
La DSi aura certainement ce type de téléchargement à terme. Hein. Bien sûr, les jeux sur DSi, on n'en verra plus dans quelques temps. Hein. Enfin, dans quelques temps. Il y aura toujours un peu de cartouches, mais il y aura de plus en plus de
jeux. Sur DSi, ils ont ouvert un shop, hein, DSiWare, sur lequel on pourra télécharger l'image de l'iPhone. Angel, tu voulais réagir là-dessus?
Alors, moi, je pense qu'effectivement, à terme, on va vers la dématérialisation, mais ce ne sera pas encore avec la PSP2, parce qu'il ne faut pas oublier... Tu te fous de ma gueule.
T'as du mal à parler.
Non, donc parce qu'il faut pas oublier, il y a encore plein de gens qui n'ont pas Internet. Donc déjà tout court, pas seulement une grosse connexion, tu vois, mais déjà tout simplement une connexion.
Tu marques un point.
Et sur portable, t'as pas le net partout en plus.
Donc ça impliquerait. Alors le marché de l'iPhone marche parce que de toute façon, dans le pire des cas, t'as la 3G, donc forcément t'es connecté.
Donc mais il faut faire des consoles 3G.
Mais
c'est tout.
Mais la PSP ne fait pas téléphone portable, elle est pas connectée au réseau.
Non mais Traz a pas tort. Hein. Et si elle a un module 3G intégré.
Faut faire un gage, putain les mecs.
Bah, si elle a un module 3G, ça implique de payer un abonnement, tu vois, un opérateur, donc c'est encore des frais supplémentaires. Par contre, moi, ma prédiction, mon avis d'expert, c'est qu'effectivement, ils vont probablement laisser tomber l'UMD, mais pourquoi pas se concentrer sur des jeux, sur Memory Card ou un truc dans
mémoristique. Ce serait assez amusant quand même de voir Sony qui a amené le CD aux jeux vidéo, arriver à zapper un disque et pour mettre une cartouche finalement, une sorte de... Même si c'est businessment, c'est pas illogique.
Ouais, mémoristique, c'est leur, ils en sont juste aux 54 businessment.
Businessment
en termes de business.
Voilà, c'est pas mal. Voilà. Ça fait 44 formats de mémoristique qui sortent, ouais. Ils sont plus à un prêt. Donc,
Rappelons que Sony a quand même raté le virage des MP3 audio. Hein. C'est quand même l'inventeur du Walkman et ils sont passés complètement à côté.
Ah, ils sont donc, vraiment vautrés.
Ils peuvent très bien faire un revirement total de situation parce qu'ils n'ont plus le choix.
Et pourquoi, puisqu'on ne l'évoque pas là, mais pourquoi on pourrait pas imaginer que la PSP2 serait aussi un concurrent de l'iPhone avec donc un téléphone intégré et que du coup elle est de la 3G?
Ça, il faudrait qu'ils soient intelligents.
Parce qu'on rappelle que Sony et Sony Ericsson Si vous voyez ce que je veux dire.
Ouais, mais en
dommage
fait,
qu'on
ouais, mais j'y crois pas parce que justement, ils ont des synergies hallucinantes en interne Sony et ils font de la merde.
Non, mais justement, entre Sony et Ericsson, ça va pas très très bien en ce moment. Donc,
je vois pas pourquoi tu dis ça. Ils ont juste viré quelques milliers de personnes, Ericsson, donc, en accusant Sony.
Donc, non, vraiment, j'y crois moyen. Vraiment, j'y crois moyen.
Bah écoutez, pour l'instant, tout ça, c'est, on n'a pas de confirmation
mais
encore officielle.
Mais effectivement, virer UMD, par contre, c'est une très très bonne, c'est une très très bonne décision d'un point de vue technologique, parce qu'en virant toute mécanique, déjà, t'économises beaucoup en termes d'autonomie.
Et une petite pensée émue pour les gens qui ont acheté des films en UMD.
Oui.
Lève la main. J'en ai une bonne dizaine, mais je les ai achetés à 2€ ou 3€ chaque. Donc
ça va alors.
La dépense, c'est pas énorme.
On va dire que l'honneur est sauf. On parlait de la PSP2, mais intéressons-nous quand même quelques instants encore à la PSP. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce qu'il y a quand même des sacrés gros titres qui ont été annoncés là, en ce mois de février 2009. MotorStorm, Little Big Planet, Assassin's Creed et Rock Band Unplugged. Autant de titres quand même forts, des très grosses licences en tout cas. On espère qu'elles seront bien traitées sur PSP, mais qui devraient débarquer cette année.
Ouais, si on en croit...
Des jeux
les...
Sur
vrais,
PSP
c'est des adaptations, mais si on en croit les images de MotorStorm, ça a l'air de plutôt bien se présenter, non ?
Clairement, Traz.
Tout à fait. Mais par contre, on ne sait pas si ces images-là viennent d'une version PS2, parce qu'il y a une version PS2 qui est prévue aussi, ou bien si c'est sur PSP. Bon, on va dire que c'est à peu près pareil, mais quand même, on aimerait bien être sûr et sûr de ce truc-là.
C'est probablement des informations qu'on aura peut-être un tout petit peu avant le 3, ou en tout cas clairement à l'E3, ouais, Chris ?
Oui, je voulais juste dire que, par exemple, le MotorStorm, c'est Big Studio, je crois, qui s'en occupe.
Tout à fait.
Et je sais pas, c'est qui, tu vois, par exemple. Non, mais bon. Non,
et pour un mec qui maîtrise aussi bien la langue française, je sais pas c'est qui. Je sais pas qui c'est, monsieur.
Ok.
Mets-lui des coups de micro, si tu veux.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que, effectivement, le trailer est impressionnant. Maintenant, ça sent toujours quand même pas mal le pipeau. Il n'y a pas de ralentissement, bon bref.
Ah, tu veux dire par rapport à la vidéo qui a été
montrée ? Oui, par rapport au trailer.
Oh, je pense pas que ce soit un pipeau, hein, ça. Non, ça m'a
La PSP est quand même capable de belles choses,
ouais,
depuis
non,
le temps.
Bon, ça paraît fin parce que c'est petit, quoi. Enfin bon, bref. Moi, j'attends de voir, je suis assez... Et puis Little Big Planet, en tout cas, ça serait intéressant le côté communautaire, voir si ça,
voilà.
S'ils arrivent
qui à... ouvert sur PSP. Hein.
Voilà, est-ce qu'ils vont arriver à refaire la même chose que sur PS3 ? Est-ce que ça va aussi bien marcher, voire mieux ?
En tout cas, ça va être complémentaire entre les deux, donc
j'attends de voir comment les deux versions vont se... cohabiter exactement.
Si des synergies pourront se créer en tout cas.
Non mais tu vois le téléchargement par exemple des niveaux les passer directement de ta PS3 à la PSP, ça peut être super intéressant.
En tout cas, et Assassin's Creed pour reparler de celui-là, franchement je t'attends aussi parce que bon, sur DS c'était pas tout à fait le même jeu que sur Next Gen, on va dire.
Pas tout à fait.
Non, pas vraiment, ouais. Quoi.
Ah, sur Next Gen, c'était pas terrible non plus sur Next Gen.
Oh,
non, je suis pas d'accord.
Ça dénonce.
Oh, bah, en tout cas, c'est
m'inscrit en faux.
C'était magnifique, voilà. Mais en termes de fond, effectivement, parfois, ça va être tendance à être un peu creux.
Je suis assez d'accord pour le coup, c'est vrai.
Voilà, mais
je me suis amusé, je vous emmerde tous.
Écoute, c'est aussi la force de.
Et Ran pareil.
Et Ran aussi, et c'est justement ça la force du jeu vidéo, c'est que c'est un média ouvert où chacun peut avoir des sensations qui sont différentes. C'est ça qui est intéressant. Mais justement,
exactement.
Puisqu'on parle d'Assassin's Creed en version Next Gen cette fois-ci, eh ben, on ne sait pas trop où il va atterrir le prochain. Alors, peut-être à Paris ? Époque Bastille, Révolution Française, c'était il y a quelques temps, et Raon l'appelle de ses voeux, visiblement. Et moi, je serais quand même vraiment grave pour, mais c'est à la fois pas nous qui l'ont décidé. Et puis, la rumeur là, qui est en train de sortir ces derniers jours, c'est Venise. Alors, c'est pas pareil, mais à la fois, c'est aussi inspirant, parce que c'est un décor qui n'a pas été trop traité. Et puis
parce qu'on pourra nager.
Ouais, et puis surtout, on imagine très bien ce que ça pourrait donner. Ce serait Venise au 16e, 17e siècle, les masques, une ambiance qui pourrait
le
être.
Le pont des soupirs, tout ça, machin.
Exactement.
Non, c'est pas Venise, ça. Si, c'est
si,
Venise,
le pont des soupirs, si.
D'accord.
Si.
Non, j'ai eu un doute là tout d'un coup.
Ouais, t'inquiète, c'est la prison avec la
les
petite
deux,
fenêtre,
ça serait bien,
le
fait.
Dernier soupir avant d'être condamné à mort.
Putain, quelle culture, je me casse.
Non, mais enfin bon. Et puis, attention, parce que cette rumeur-là ne fait pas abandonner la piste de Paris, puisque
ah oui.
Des gens qui auraient vu le jeu disent qu'il pourrait y avoir plusieurs périodes, plusieurs lieux, donc. Et donc, on peut très bien imaginer peut-être un
sans
assassin.
Spoiler, en tous les cas, ça rentre dans le début de l'histoire qu'on a eu avec le premier. Donc,
exactement. Imaginons un assassin qui passe de Paris à Venise en passant par... je sais pas. Non mais en Bavière, non mais en Allemagne à cette époque, il y avait la cour était assez importante en Austro-Hongrie. Enfin bon, ouais. Il pourrait avoir pas mal de belles choses.
N'empêche que ouais, bah,
historiquement
putain,
parlant.
Paris. Mais c'est surtout le coup de la Révolution française qui nous excitait, hein, je crois. Ah moi c'était plus Jade Raymond, mais bon.
Ouais, ouais. Évidemment.
Alors pour votre gouverne, j'ai appris que sa sœur est encore mieux.
Ok, ah, d'accord.
Parce que sinon, visiter Paris, finalement, j'ai qu'à sortir de chez moi. Hein. Enfin, je me comprends.
J'écoute, peut-être.
En sortant de toi, c'est ça.
Mais c'était pas la même ambiance quand même. Bon, allez, on continue, on enchaîne avec un événement vraiment en cette fin de mois de février. C'était au Japon que ça s'est passé. Star Ocean 4, la sortie, événement, clairement. 162 000 ventes en une semaine. Un vrai carton hein, pour la Xbox 360 dans ce pays où la console a clairement du mal à s'imposer, même si c'est tellement incomparable par rapport à la première génération de Xbox qui, elle, n'avait juste. Mais... Enfin, c'était
rien,
à 75
zéro.
Exemplaires à peu près. Là, finalement, elle fait plutôt de la résistance. Et mieux que ça, pour la première fois, la Xbox 360 a devancé en termes de ventes hebdomadaires la Wii et la PS3. Ça, c'est quand même notable. Alors, maintenant, on va voir sur combien de temps ça va durer. Hein.
Ouais,
probablement
pas très longtemps.
Qu'une semaine, mais c'est déjà quand même un petit événement en tant que tel. Et du coup, bah, on peut se poser aussi la question d'imaginer la fin de carrière de la 360 au Japon. Probablement qu'à l'international, elle s'en vendra mieux que la PS3. En tout cas, pour l'instant, elle est quand même... Et elle continue à être largement devant, presque 10 millions d'avance. Et surtout, elle continue à outperformer, à mieux marcher que la PlayStation 3 en France, par exemple, où depuis 4 mois, elle est devant la PS3 dans les ventes mensuelles. Donc la Xbox 360 continue à bien marcher. Caf.
Dans le pseudo-lobby de Street Fighter 4, hier, en cherchant des victimes potentielles, il y avait donc 4 ou 5 Japonais, dont j'étais super étonné, et je me suis fait fracasser par un. Donc voilà, et j'étais étonné, ça laguait pas tant que ça. Ça marchait. Et le mec est clairement japonais, parce que donc, pour ceux qui ne savent pas, dans Street Fighter 4, dans l'espèce de lobby, il y a le nom du pays, mais dans le nom du pays, enfin dans l'alphabet du pays. Donc il y avait des Coréens, il y avait des Japonais, etc. Et j'ai halluciné, il y avait plein de Japonais. Donc bon, ok, c'est Street Fighter 4, mais sur Xbox 360, quoi, tu vois.
Oui, mais alors pourquoi tu nous parles de ça maintenant, alors que j'allais parler d'après de la relative déception Street Fighter 4?
Mais parce que...
De vente au Japon.
C'est parce que...
Parce que t'as merdé, c'est tout, t'as merdé.
Il y avait 4 mecs, ils étaient là hier.
You fail, man. Donc on va y revenir juste après, c'était une sorte de grand teaser, on va dire, mais voilà. Mais en gros, je poursuis ma
Fallait
question, peut-être que quelqu'un va y répondre, bordel de merde. Est-ce que vous pensez que Microsoft, franchement, s'il poursuit son effort avec la prochaine génération de Xbox, bah, finalement pourra finir
non,
par
next.
S'imposer au Japon?
S'imposer.
Quand je dis s'imposer, c'est pas forcément la première console.
Ah ouais, tu m'as fait peur là.
Mais faire jeu égal, être peut-être deuxième,
non.
Puisque on rappelle que là ils sont que deux fois moins, la Xbox 360 se vend que deux fois moins que la PS3. Avant c'était 15 fois moins.
Ouais, sauf que sur la totalité, ils sont quand même super à la bourre.
Mais c'est ça justement que je dis.
Ouais, mais
c'est-à-dire qu'il y a
2,3
millions de PS3 et il y a quasiment 1 million de Xbox maintenant.
Ah d'accord.
Ah non, mais alors qu'avant c'était genre quand ils ont franchi 100 000, c'était au bout de 5 ans.
Ouais.
Donc
petit à petit, l'oiseau fait son nid.
Ouais. Et avec des jeux mieux adaptés, peut-être.
Bah,
c'est intéressant d'avoir
que...
Jean c'est okay, votre avis là-dessus sur cette question.
C'est que les RPG qu'on cartonnait de toute façon. Donc.
sur la place de la Xbox au Japon, hein,
ouais, tout à fait.
Bah écoute, moi, franchement, je pense qu'ils vont avoir beaucoup, beaucoup de mal. C'est en fait, ils ont ça dans le sang, en fait, les Japonais, hein, pour qu'il y ait quelque chose qui... Bon, ça arrive, hein, il y a eu l'iPhone, je crois, qui avait super bien.
Non,
même pas.
Non.
Ah bon, okay. L'iPod, oui, non. Par contre.
Ah, l'iPod.
L'iPod, ouais, mais
l'iPhone,
pas
pardon,
du tout. Mais c'est structurel, l'iPhone, en termes de produits téléphone pour les Japonais.
D'accord.
C'est archaïque, c'est genre, c'est trop pourri ton iPhone.
Moi,
quoi.
Je pense qu'il y a, en fait, il y a une espèce de barrière culturelle pour que ça s'impose, tu vois. C'est,
mais est-ce que c'est quand même pas en train de changer un peu? Est-ce que ça, c'est pas ce qu'on pouvait dire il y a 2 ans, mais qu'aujourd'hui, on se doit de le nuancer?
Oui, un peu. C'est un peu ça. Tout est dans le détail. C'est un peu. Donc, si ça se fait, ça va être un petit peu long. Maintenant,
s'ils font la même progression qu'ils ont fait entre cette première génération et celle qu'on a maintenant, avec celle qu'on a maintenant et la prochaine, mine de rien.
Est-ce qu'il y a 4 ans, on pouvait imaginer un Final Fantasy sortir sur Xbox 360? Franchement, non.
Je crois qu'en fait.
Un GTA sortir sur Xbox 360.
Oui, mais attention, il faut
PES.
Pas mélanger.
Ça se trouve, ça va être leur meilleur score de toute leur vie au Japon. Et là, ils sont vrais gars.
Mais il ne faut pas mélanger l'obligation qu'ont les développeurs et éditeurs japonais de se mondialiser pour des questions de marché avec le succès que peut rencontrer la machine de Microsoft au Japon. C'est deux choses qui ne sont pas tout à fait pareilles. Quoi. Elles peuvent être liées, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Si, je veux dire, si FF13 sort sur 360, ce n'est pas parce que la 360 a une meilleure image au Japon que la première
même
génération.
Même si on rappelle que justement, FF13 sortira sur Xbox 360 partout, sauf
au Japon.
Ouais.
Pour le moment, en tout cas, bon, ça, c'est susceptible de changer. Mais...
Ouais.
C'est vrai qu'il faut, en fait, il faut mettre en parallèle aussi le succès, le fait que la Xbox perce un petit peu au Japon et le fait que la PS3 marche peut-être pas si bien que ça finalement. Ouais. Enfin, je sais pas, j'ai pas les chiffres au Japon, je suis pas très chiffre moi. Mais bon, on va dire que moi, à mon niveau, ce que je vois, c'est que la PS3 elle peine un petit peu quoi, pour plein de raisons différentes.
Bah, le marché de la HD peine en fait. Très clairement, la Wii est largement dessus, hein, mais c'est vrai que le passage à la haute définition, donc la PS3 ou la Xbox 360, est un peu périlleux au Japon, alors qu'il est assez dynamique dans le reste du monde.
C'est vrai, tout à fait.
Putain, j'ai l'impression de parler comme un businessman, c'est dynamique, ça performe.
Tu sais quoi, tu me rappelles
je me suis fait flipper là.
Jean-Pierre Gaillard.
Non, ne me dites pas ça.
Non, Jean-Pierre Gaillard, il leur dit ça surperforme.
Oui, c'est ça.
C'est un terme de bourse, attention.
Je me rappelle parce que Jean-Pierre Gaillard, donc pour l'anecdote, m'a fait quand même acheter du Titus. Beaucoup de Titus.
Ah ouais, mais t'étais pas malin non plus.
Bah, à l'époque, c'était un investissement. Mais...
C'est le fil rouge de l'émission. C'est
et voilà, et le renard m'a bien baisé.
Ceci dit, pour en revenir à Microsoft au Japon, est-ce qu'ils seraient tentés un jour de faire une portable? Parce que visiblement, là-bas, c'est ce qui fonctionne le mieux quand même. Tout ce qui est un petit
même
petit
dans,
là-bas,
même
ils
dans le
bien.
Monde, hein, globalement. Hein,
tout à fait, oui.
Le succès de la DS et puis la PSP, le succès à ne pas mésestimer non plus, c'est quand même 50 millions de PSP, c'est pas rien.
C'est énorme. Mais je crois que pour le marché des portables, Microsoft, ils sont calmés. Là. Après le Zune, ils vont pas y aller tout de suite, en fait.
Zune, on rappelle, le projet développé par Jay Allard, qui travaillait beaucoup sur la première Xbox.
Sur Xbox, la première.
Il faut avoir une culture de la portable. Je pense que Nintendo, là, depuis longtemps, je vois mal Microsoft se lancer là-dedans.
Bah, Sony, il l'avait pas forcément non plus. Hein, mais bon.
Ouais, mais est-ce que ça a vraiment marché, Sony?
Bah, ils en vendent 50
millions. La PSP, ça va. C'est quand même c'est pas un four.
Il y a pas de jeu, mais elles se vendent, c'est un truc de ouf.
C'est vrai, c'est ça le pire en plus.
Des clips de rap.
Ça doit être ça.
Dans le métro.
Mon Dieu. Toi aussi, t'as fait ce constat. C'est effrayant. Hein. On fait le même coup. Oui, pareil. C'est ça. Oh. Et alors tout à l'heure, je reprends. Teasing sur Street Fighter 4, tu disais « Ah, je trouve des Japonais et tout ». Alors, Street Fighter 4, démarrage sensationnel au Japon. Hein. Mmh. Premier jour, 84 000 ventes. On se dit « Ça part sur des chapeaux de roue ». Le problème, c'est qu'à la fin de la semaine, ils étaient qu'à 103 000. Ah, en gros, est-ce que tous les gens, les vrais fans du jeu, se sont parués direct, mais que derrière, ça cale un peu?
Au Japon uniquement, alors, parce que le lancement mondial a été vraiment super bon. Mais je pense que les Japonais, on en revient à ce qu'on disait l'autre jour.
C'est plus les jeux de combat, les Japonais ?
Attends, tu veux dire 84 000 sur les deux supports en même temps ? Non, non, je crois pas, moi.
Parce que j'ai un doute.
Il me semble que c'est 84 000 et 60 000 pour la Xbox 360.
En tout, c'est 103.
Avec les deux plateformes.
C'est bizarre, parce que j'ai pas du tout ces chiffres-là en tête, moi. J'ai l'impression qu'ils ont fait 130 000. 130 000 pour la première semaine.
Ça reste pas terrible.
Ça reste pas terrible.
Oui, c'est sûr. Ils étaient quand même. Mais les deux cumulés étaient second derrière. Le RPG dont j'ai oublié le nom. Là.
Angel, Star Ocean 4.
Star Ocean 4.
Attention, il ne faut pas oublier que là-bas, le jeu, il est sorti en format arcade il y a déjà un bon moment. Mm. Donc, le vrai core gamer, il a eu le temps déjà d'en faire le tour dans les salles d'arcade.
Bien vu, l'aveugle.
Les salles d'arcade au Japon, ça reste encore une institution. Tu vois, c'est pas un truc comme en France ou même en Europe en général qui s'est perdu avec les consoles. Donc, les gros core gamers.
Ils vont jouer en arcade.
Oui, déjà, ils vont jouer en arcade. Et puis surtout, les moyens core gamers, ils ont aussi eu le temps de faire le tour du jeu, tout simplement. Ils n'ont plus forcément envie d'y jouer.
Peut-être pas chez eux, mais
en console,
c'est sorti, c'est social.
Et puis, ouais, voilà.
Ils ont moins la culture. Moi, j'ai la feature qui fait triper les Ricains et les Européens sur Street Fighter 4, c'est le online. Mm-hmm. Et ils ont moins, entre guillemets, cette culture du online, les Japonais, sur l'aspect console comme ça. Mm-hmm. Je pense que c'est quelque chose qui va venir encore plus, mais je pense qu'il y aura plus de joueurs de Street 4 online qui vont être coréens, thaïlandais, etc., que de japonais.
Il faut voir que les Japonais, ils jouent dans les salles d'arcade, quand ils se duellent, ils sont l'un en face de l'autre. En fait, ils sont chacun sur une borne. Qui sont linkés, voilà. Donc il y a une vraie. C'est vraiment pas la même consommation, quoi.
Bah écoutez, on suivra en tout cas.
Ils ont quand même chippé 2 millions au monde.
Mais chipper n'est pas vendre.
Exact.
Non mais sans déconner. En tout cas, on suivra de près ces chiffres.
Ils avaient l'air super contents. Hein, Capcom, ils ont annoncé qu'ils avaient explosé toutes leurs prévisions.
En tout cas, vous savez ce que nous pensons de Street Fighter 4. Hein, le cas échéant, vous pouvez vous référer au test.
Sortez les paddles pour qu'on puisse jouer avec, quoi, surtout.
Voilà, parce qu'on rappelle quand même Chris, hein, Chris Fighter. Ça sort de quelque part, quand même, j'ai envie de dire.
C'était il y a 10 ans, je dois dire que...
Ouais, cela dit,
est-ce que tu restes un monstre à Street?
Ah non, franchement, non, j'ai vraiment super perdu. Je vais y rejouer un petit peu au 4 parce qu'il y a toutes les bases du 2, effectivement, et c'est super agréable. Mmh. Parce que là, je ressors les trucs que je sortais avant, plus ou moins. Et en plus, c'est un peu plus facile. Mais j'ai vraiment laissé tomber.
Moi, le truc qui me rend fou, c'est qu'effectivement, au paddle,
c'est que t'as jamais gagné.
Aussi, quand tu joues au paddle, t'as vraiment cette sensation de part de chance parce que les super, les ultras sortent, mais un petit peu au bonheur la chance, dans la mesure où tant que t'es pas au stick ou t'as pas un truc vraiment super carré. Putain, c'est la manette Microsoft, en tout cas, c'est vraiment pas top. Quoi,
à part l'Ultra de Gaël, que j'ai vraiment du mal à sortir au stick.
Bah, tous les persos, enfin, moi personnellement, tous les persos à charge avec la manette 360, j'y arrive pas.
C'est pas possible.
Impossible.
Non plus.
Si Zangief est parfait, enfin, est pas mal.
Il y a des gens qui jouent avec Zangief.
Bah bien sûr, bah,
pour de vrai, genre pas
non, avec
il est super fort,
avec le SF4 Zangief, c'est devenu un super perso.
Il est dans le,
bon, c'est pas
dans
Sagat,
le top du charisme.
Ouais.
Non mais attends, mais même El Fuerte, chacun ses goûts.
Ouais, bah, je préfère Chun-Li.
Non, en revanche, le mexicain là,
El Fuerte,
alors lui, oh là là,
El Fuerte. Au secours.
Et apparemment, le petit français, là.
Abel.
Abel est pas mauvais du tout. Et il cartonne dans les salles d'arcade japonaises.
Il a un potentiel de reloutage, ce perso, mais c'est un truc insupportable. Tu joues contre des mecs qui le maîtrisent. T'as juste envie de casser, t'as envie de casser la manette.
C'est sa roulade, ce qui fait kiffer.
Et puis des priorités sur les shops. Enfin bon, après, on va rentrer dans le truc technique, mais il est super.
C'est ça, parce qu'apparemment, il fait un vrai carton au Japon dans les salles d'arcade. Et Capcom ne s'y attendait pas.
Il est super fort. Il est super fort.
Ok, bah en tout cas, on suivra l'évolution des ventes de ce très beau titre, en tout cas, de très près. On parlait de business, d'argent, il y a quelques instants. Raan, on suit de près, en ce mois de février, pendant le mois de février, le rachat d'Eidos par Square Enix. C'est assez surprenant, c'est l'une des premières fois qu'un un éditeur japonais essaie de mettre la main sur un gros éditeur occidental, et ça se présage très bien.
Pour l'instant, oui, on n'a pas eu de news depuis quelques temps, mais Time Warner, qui est l'un des plus gros actionnaires de Eidos, a donné son feu vert pour cette transaction. Les dirigeants d'Eidos sont d'accord aussi. Donc, pour le moment, les choses suivent leur cours. Il faut que le reste des actionnaires acceptent l'offre de Square, qui est une offre assez généreuse. Et donc, Eidos pourrait devenir partie intégrante du groupe Square Enix.
Angel ?
Ouais, moi je connais déjà des gens chez Eidos qui prennent déjà des cours de japonais.
Non, effectivement, ça se présente plutôt pas mal, donc mais c'est je pense une bonne opportunité aussi pour Eidos, quoi, parce que bon, mine de rien, ils ont mieux performé que ce qu'ils pensaient à la base sur l'année 2008.
Tomb Raider Underworld, c'est finalement pas si mal vendu que on nous laissait présager, hein.
Mais bon, malgré tout, ce qui est un peu bizarre aussi, c'est comment Square n'a pas fait de très bons résultats non plus pour autant. Non. C'est pas une boîte qui a toujours été hyper stable financièrement. Il y avait même, je me souviens qu'il y a.
A été décalé.
Ouais. Et puis il y a quelques années, on s'inquiétait avant la fusion Square Enix. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais en tous les cas, ça peut être intéressant. Faut voir comment est-ce que Square va gérer le truc, quoi. Si ça se fait, et puis il faut voir ce que Eidos va faire avec une direction japonaise, s'il y aura vraiment des synergies ou pas, quoi.
Bon, en tout cas, c'est plutôt bien parti. Et puis si ça se fait, vous inquiétez pas, il y aura un Kingdom Hearts, mais en guest star Lara Croft, Hitman, Agent 47. Enfin, parce que mine de rien, si ça se fait,
il y a la licence.
Square plus Eidos plus Enix, c'est un vivier de licence de l'espace. En tout cas, quand t'es un peu gamer. Qui est assez intéressant, quand même. Hein. C'est pas négligeable.
Moi, du moment qu'il me massacre pas Deus Ex 3.
On sera bien content.
C'est du tour par tour.
Justement, puisqu'on parlait de ces sociétés qui se rachètent et de ces périodes un petit peu de crise, eh ben, il y a deux sociétés en ce moment qui vont vraiment pas bien. Hein. D'un côté, il y a Midway qui tente de rendre l'âme doucement, qui se déclare en banqueroute pour essayer d'éviter que les créanciers lui tombent dessus. Et THQ qui dégraisse sévèrement. Hein. Sur 600 postes, c'est quand même 600 postes de moins, 24% de l'effectif. C'est pas évident en ce moment, hein, Angel.
Ça se passe pas bien. C'est la crise, les enfants. Non, mais la Midway, alors justement, j'ai lu la news hier, puisqu'on est mercredi.
D'accord. De lui. Okay.
Donc, j'ai lu la news. Alors là, ils en sont à revendre, revendre leur licence, leur licence au singulier, vu qu'il n'en reste plus qu'une. Donc, Mortal Kombat.
Qui a très bien marché, hein. C'est surprenant, c'est surréaliste, mais le dernier Mortal Kombat, qui est quand même bof, pas bon, très mauvais, a très bien marché.
Ouais. Mais ils la revendent 3 millions et quelques de dollars, donc pas grand chose en plus.
C'est que dalle, ouais.
Et donc ils en sont là, quoi, pour éviter la banqueroute. Ouais. Et donc, comme disait un mec pas trop con qui fait des super bonnes analyses, c'est en gros revendre la licence qui te permet de gagner le plus d'argent dans ta boîte, c'est un peu. C'est reculer pour mieux sauter, quoi, de toute façon. Ouais. Tu
vas, c'est ça, ouais, c'est voilà. Reculer pour mieux crever, ouais.
Tu cours à ta perte de toute manière. Et quand t'as THQ, THQ, pareil, ça dégraisse, mais comme beaucoup d'autres, de toute façon, tous les éditeurs, un par un, commence à subir la crise, quoi. Il y a eu Electronic Arts.
Mais comme par hasard, c'est les deux qui n'ont pas de licence en propre chez eux, avec des studios de développement interne, qui ont des trucs vraiment verrouillés à eux et qui n'ont pas finalement de d'assets à faire valoir, quoi, parce que
THQ.
Bah ouais.
Bah THQ, ils ont la WWE.
Mais c'est pas eux, justement. C'est une licence qui paye tous les mois. C'est pas un truc à eux, donc c'est
ils
pas.
Ils ont aussi Pixar, tu vois, tous ces trucs là.
Mais c'est justement ce que disaient les analystes. C'est que des trucs qui sont extérieurs à la boîte, qui sont dealés à l'année ou voire au produit. Donc, en interne chez eux, c'est une coquille vide, quoi.
Ouais, bah d'ailleurs, de toute façon, je sais plus quel analyste encore, mais on parle beaucoup d'analystes et finalement, tu peux prédire plein de trucs pour pas dire grand chose.
Sans avoir fait d'études.
Ouais, voilà, mais là, il y en avait un qui déclarait encore récemment que THQ, c'était 50% de chance de finir en banqueroute.
Bah ouais, mais moi aussi j'ai des dés. Hein.
Mais tu vois, j'y crois moyen quand même, parce que ça reste. Enfin, THQ, ça reste le 3e ou 4e éditeur mondial, ça dépend des mois, ça sert plus ou moins la bourre. Et je pense que même en cas de gros manque de finances, ils peuvent faire une levée de fonds sans trop de problèmes, voire diluer leurs actions, etc. Quoi. C'est pas non plus.
La situation est vraiment très tendue, mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est un problème de quand on fait pas des jeux qui marchent très très bien, ça se sent tout de suite. Ils ont investi beaucoup d'argent sur des jeux gamers qui n'ont pas vendu énormément, et ils le payent maintenant. Quoi.
Messieurs, que ça va pas bien en ce moment.
Ça, ça dépend.
On va faire le monde
plus,
quand même.
Tout est relatif. Tu vois, tous les jeux
WWE. Discuter,
moi, je paye de l'électricité en attendant. Hein.
Tous les jeux WWE font un carton. Tous.
Pas chez moi.
Bon, écoutez, en tout cas, clairement, vous l'aurez compris, Midway et THQ en ce moment, c'est pas la période la plus douce qu'ils sont en train de traverser. Est-ce qu'ils survivront à la crise ? On le saura dans quelques mois.
La suite au prochain numéro.
Si j'en crois notre président, nous sommes au milieu de la crise. Ça veut dire qu'il sait où on en est. Et tout va bien, du coup.
Très, très bien imité.
Merci, on vous remercie. Justement, Chris, je me tourne vers toi, puisque ce mois-ci, il y a eu premier teaser de Mass Effect 2, qui, je crois, est l'un de tes titres préférés. Tu avais fini le premier. T'avais vraiment aimé. Ouais. Qu'est-ce que tu as vu dans ce teaser et qu'est-ce que tu peux en dire ?
J'ai pas vu grand-chose hein, comme tout le monde.
Bah oui.
à part montrer que a priori ton personnage meurt, mais bon, dans quelles conditions ? Ça fait discuter. Mass Effect, ouais, super jeu, super imparfait.
Oui, mais génial, avec des ascenseurs très très lents.
Mais génial au niveau de l'immersion. Non, c'est-à-dire que quand t'allais sur les planètes, t'avais quand même un carré défini où c'était tout le temps les mêmes bâtiments. C'était pas très très intéressant, faut bien le dire.
C'est pas très grand pour des planètes non plus. Hein.
Non, c'est clair. C'était pas une planète, c'était un stade de foot à chaque fois.
Voilà.
Donc bon.
C'est vrai que le background est génial. Quoi.
Voilà, le background et puis leur comment ça s'appelle
l'encyclopédie.
Enfin c'est un nom spécial, le codex, je crois.
Oui, c'est ça.
Voilà, ouais. Le codex était fabuleux. Tu sentais vraiment qu'ils avaient bossé le truc et qu'ils voulaient en faire un truc sur plusieurs
épisodes. Tu vois, comme toi sur Lost Odyssey, où tu prends ton pied à lire des trucs, et là c'est pareil. Tu découvrais l'univers de Mass Effect et tout était expliqué, tu débloquais des trucs, c'était vraiment super intéressant à lire. Vraiment, vraiment d'enfer. Ouais.
Alors,
pour le second, du coup, ils en ont parlé un petit peu, ils ont dévoilé des artworks. Ce teaser-là, effectivement, qui dit que Shepard, donc le nom de notre personnage principal, était Killed in Action. Donc, il serait mort au cours d'une mission. On ne sait pas ce que les autres personnages vont devenir ou pas. On ne sait pas si on va commencer comme ça, mais en tous les cas, il sera plus noir, a priori. Ils ont dit que ce serait, en termes d'ambiance, plus sombre que le premier.
Chris ? Et un truc intéressant, c'est qu'a priori, on devrait pouvoir reprendre ses sauvegardes pour jouer aux deux. Donc moi j'aime beaucoup ce genre de trucs qui existait, je crois, dans les Suikoden, enfin bon bref, dans certains jeux. C'est génial parce que tu t'investis dans un personnage, hop, tu peux le retrouver et
sait pas encore trop comment en même temps.
On sait pas comment, mais bon, rien que le fait qu'ils
pensent. Ils ont dit gardez vos sauvegardes. Donc voilà.
Bon, on suivra ça. On suivra ça de près.
On n'est pas sûr non plus que ce soit une exclu 360 pour l'instant.
Si c'est comme Gears of War, tu vois, si c'est pour avoir un succès supplémentaire, super.
Non, mais c'est pas du tout le même style de jeu. C'est, là, on s'implique vraiment, c'est un RPG, on construit son personnage.
Tant que Gears of War 2, c'était ça, tu vois. Enfin, tu récupérais un succès supplémentaire si t'avais une sauvegarde du premier Gears of War.
Oui, bon, d'accord, ok.
Voilà.
C'est pas grave.
Ce n'est pas la même chose. Alors, justement, on conclut là-dessus, là, avec. C'est peut-être une exclusivité 360, mais c'est pas sûr encore, on sait pas trop.
Bon. Ça, c'est plutôt l'inverse, en fait. Il y a des chances pour que ça n'en soit pas une.
D'accord.
Alors que le premier, elle était si on exclut le PC en fait. Mais bon, rien n'est garanti effectivement, voilà, donc c'est dur.
Écoutez, j'ai envie de dire wait and see, hein, on verra. Allez, avant de conclure ce podcast, la dernière information qui visiblement vous a fait beaucoup réagir, et du coup je vais avoir besoin, vous messieurs tous, de votre avis. C'est un objectif finalement que Monsieur Satoru Iwata a énoncé de manière humble, hein, mais qu'effectivement ça peut se présager. Détrôner la PlayStation 2, est-ce que la Wii en est capable ? Visiblement, oui, puisque sur la même durée, après autant de mois de lancement, la PlayStation 2, on le rappelle, qui est la console la plus vendue de tous les temps, avec un cumul de plus de 120 millions d'exemplaires dans le monde, eh bien, c'était vendu à 28 millions d'exemplaires, là où la Wii, toujours sur la même période, s'est vendue à 46 millions d'exemplaires, soit 64% de plus que ce qu'avait fait la PS2. En même temps, sur la même durée de lancement.
Pérenne.
Voilà. Alors, c'est la question qu'on a envie de se poser. Est-ce que la Wii va dépasser ces 120 millions d'exemplaires, Raon ?
Personnellement, je pense que c'est possible, mais je doute qu'elle ait la même longueur de la même durée de vie qu'une PS2, quoi.
Ouais, caf.
Putain, j'espère pas.
Oh, pourquoi on peut pas
j'aime pas la Wii, je l'ai mais j'y joue, c'est vrai que j'ai du mal à, j'ai pas
tu l'as en plus c'est un pas la Wii.
Bah ouais, mais j'ai du mal à avoir un
mais si elle fait venir
machine,
un nouveau vivier potentiel, pas tous mais de gens qui s'intéresseront aux jeux vidéo et qui le regarderont avec un autre regard.
Il y a tellement de gens qui ont la Wii et j'ai toujours tellement pas de points communs en termes de jeux vidéo avec eux par rapport à leur interprétation du média si tu veux et ce qu'ils en font, que pour moi ça n'a rien à voir. C'est je lis des livres, il y a des gens qui lisent des livres, c'est très bien, on lira jamais les mêmes. Et ben là c'est exactement la même chose. Je n'ai absolument pas plus de points communs avec eux en jouant au jeu vidéo sur leur interprétation du jeu vidéo que quand ils y jouaient pas en fait.
Mais si ça te permet d'avoir des livres que t'aurais pas eu si eux ne lisaient pas. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais.
Non mais c'est surtout
là oui, mais pour l'instant c'est là, pas oui. La direction que ça prend.
Mais surtout ce que j'ai envie de dire, c'est que les livres tout le monde connaît, tout le monde en entend parler, alors que les jeux vidéo aujourd'hui encore, mine de rien, pour le grand public, ça n'existe que broc, un truc un peu flippant et adolescent et souvent très violent grâce à nos amis des médias grand public.
Ça change chose dans chez certains voilà journalistes. Qui sont pourtant pas si vieux que ça. Hein. Mais je te dis, je reste super dubitatif et, sur l'évolution de la chose. Mais bon, je suis peut-être un vieux con comme un HL déjà et je regrette peut-être aussi l'esprit. Non, mais c'est lui qui le revendiquait et je suis assez d'accord avec son regret du ghetto, du machin que tu as, d'un truc qui t'appartient et qui t'appartient plus finalement. Sur la Wii, pour l'instant, je suis pas persuadé qu'elle ait apporté quelque chose d'intéressant dans ce sens-là.
Ouais, moi, je pense que c'est jouable en fait, parce qu'il ratisse large. S'ils sortent un petit peu de la spirale dans laquelle ils se sont foutus avec justement cette simplification à outrance des graphismes soi-disant parce que c'est du casual, si Nintendo filtre un petit peu plus disons les productions tiers au niveau qualitatif, je pense que ça peut carrément relancer un certain type de jeu pour un certain public et justement attirer de plus en plus de monde. Quoi. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est quelque chose de parfaitement jouable. Ouais.
D'autant qu'il ne faut pas oublier que pour beaucoup de personnes, la Wii, c'était un effet de mode et on a vu qu'en 2008, la Wii avait encore mieux marché que la Wii en 2007. En gros, ça s'accélère et qu'effectivement, si en plus, ils arrivent à toucher un peu plus certains gamers, ça peut être... c'est loin d'être fini, Angel.
Alors moi je pense qu'ils peuvent y arriver, mais s'ils sortent une nouvelle révision de la console, justement comme la PS2 l'a fait avec la PS2 Slim, mm-hmm. qui permet de renouveler le parc et de faire acheter deux fois le même produit à la même personne. Ouais. Parce que c'est un peu comme ça que la PlayStation 2 finalement a réussi à se vendre aussi bien. C'est-à-dire on t'a vendu deux fois le même produit pour certains foyers.
Ouais, Jean.
Enfin j'en reviens à un truc encore. Hein. Enfin, moi je trouve que pour l'instant la Wii, personne l'exploite, très honnêtement. Hein. Mm. On n'exploite pas la Wiimote. Je sais que la Wiimote, elle est pas si sophistiquée qu'on a bien voulu nous faire
croire. Mais le Wiimotion Plus qui arrive, il y a le Wiimotion Plus probablement aider à avoir un meilleur contrôle.
Voilà, un meilleur feeling et peut-être à creuser d'autres mécaniques de gameplay et d'innover, etc. Enfin, moi, ça me paraît être une plateforme propre à l'innovation, quoi.
Clairement. Voilà. Si ce n'est la plateforme qui peut le plus innover et nous surprendre. On en est peut-être qu'au début, Traz.
Ouais, moi je suis assez d'accord. Nintendo, ils ont toujours plutôt fait des accessoires autour d'une console plutôt que changer une console, comme dit Angel. Ça, j'y crois absolument pas. Et en plus, les chiffres vont augmenter de plus en plus.
Alors, Raon n'a pas l'air d'accord du tout.
Ils ont fait combien de DS ? Oui, mais là, on parle de la console de salon, je parle. Bah ouais, mais ça, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils se feraient.
Super Nintendo, ils en ont pas fait beaucoup.
C'est comme la même époque, là.
Oui, mais.
Puis là, enfin,
ça, c'est des consoles portables.
Oui, mais on parle de portables, effectivement. Là, l'évolution, elle a été.
Console de salon, c'est vrai que Nintendo, ils ont rarement.
Mais tant que la Wii se vendra comme ça, quel intérêt pour eux de la changer, quoi. Ouais. Tant qu'elle se vend comme ça. Et en plus, Nintendo, au niveau software, ils auront toujours un jeu qui fera qu'ils vont en vendre 10 millions là, 10 millions là. Donc ça peut durer encore 5 ans comme ça, il n'y a aucun souci.
C'est plus une parenthèse qu'autre chose, mais actuellement, on est dans l'ère du beau, du next-gen, de la texture et tout ça.
Pas dans l'ère du beau,
pour les gamers en tout cas.
Pour les gamers. Et enfin, moi. Il y a un truc qui joue contre la Wii, je pense que c'est l'absence de HD. Quoi. C'est-à-dire que tout le monde en Europe ou aux États-Unis est équipé de télé HD. Et quand on branche une Wii sur une télé HD, mais c'est catastrophique.
Oui, sauf qu'attention, pas tout le monde du tout, puisqu'il y a quand même moins de 50% des foyers qui sont équipés de télé HD. Et visiblement, tous les joueurs casual, mais une fois de plus, dans nos bouches, c'est pas péjoratif. Vu le plébiscite de la Wii, c'est qu'ils s'en fichent un peu de la HD. Est-ce que c'est pas, une fois de plus, une volonté des gamers d'avoir du beau, du HD du...
C'est possible, ouais.
Moi, je suis tout à fait d'accord. La HD, pour le jeu vidéo, en tout cas, et pour une console, c'est certainement venu trop tôt.
Bah, c'est la poule et l'œuf en même temps. Hein. Il y a un moment où il faut y aller.
Oui, non, je suis entièrement d'accord que d'un point de vue technologique, il faut faire ce genre de choses. Mais Nintendo, ils sont pas stupides. Je veux dire, ils gèrent leur business depuis des années, des décennies, et ils savent comment il faut faire pour pas perdre d'argent, quoi. Et ils le font très bien.
Pour moi, leur retard, à la limite, c'est pas l'HD le pire. C'est vraiment toute leur expérience online. C'est-à-dire qu'ils ont le WiiWare, ils ont un catalogue, ils ont les jeux en émulation, etc. Mais putain, c'est lent. Il y a pas de périphérique pour le stockage. Mais franchement, là-dessus, ils ont un truc énorme à jouer.
Jean, t'as pas l'air d'accord.
Ah oui, non, je pense qu'ils ont un truc énorme à jouer sur le WiiWare, mais je pense que le public de la Wii n'est pas encore préparé à ça. C'est-à-dire que le public de la Wii découvre finalement le casual, le jeu vidéo quelque part. Voilà. Et le online, pour eux, ça leur passe pour l'instant mais complètement au-dessus de la tête. Ils n'ont pas cette culture-là. Mais c'est sûr qu'il y a un terrain à défricher.
Le business à terme, il va être là, et je pense qu'il y a un truc énorme à jouer pour eux. Quoi.
Mais c'est pour ça que c'est peut-être une fois de plus encore que le début, puisque rappelons-nous, hein, les ludothèques par exemple de la DS, les deux premières années, on se retapait énormément d'adaptations de jeux N64. Y avait quelques petits jeux un peu créatifs, mais c'était pas non plus la fête foraine. Et puis on voit au fur et à mesure que les titres arrivent, des gros titres, ça continue.
Oui, la ludothèque s'est diversifiée, ouais. Elle s'est enrichie. Mais
c'était pas dès le premier jour.
Non, bien sûr.
Il a fallu attendre. La Wii encore est une console jeune.
Ouais, et puis je pense que de toute façon Nintendo est en train de prendre conscience de ça. Hein, d'après, dans les hautes sphères, ça circule. Il faut qu'ils filtrent véritablement les bons développeurs des escrocs, quoi. Voilà, parce qu'il y a des escrocs. Hein. On parlait des ch'tis, on parlait de.
Pour moi, Nintendo, c'était ceux qui filtraient le plus.
Je pense que la console est victime de son succès. C'est-à-dire que faut pas se leurrer, hein, ça rapporte du pognon. Donc
beaucoup.
Tant que les jeux se vendent, même si c'est des merdes qui se vendent, ça rapporte du pognon. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, l'image de Nintendo en pâtit. Mm-hmm. Et je pense que c'est ce qui est un petit peu arrivé cette année.
Et puis, il y a une avalanche maintenant de titres qui ne sont plus des jeux, mais des logiciels. Ça, c'est une nouveauté aussi pour une console. Voilà.
Mais justement, moi, j'avais entendu dire, je ne sais plus qui m'avait dit ça, très honnêtement, ou je l'avais lu quelque part, que Nintendo était beaucoup moins regardant justement sur la qualité des titres. DS peut-être un peu moins, je sais pas. En tout cas, sur Wii, ils étaient beaucoup moins regardants, ce qui fait qu'effectivement, il y a une flopée de jeux qui mériterait pas
d'être. Mais là, ça va changer parce qu'il y a eu vraiment beaucoup d'abus. Quoi.
Beaucoup d'abus, ça m'étonne pas, hein, de toute façon.
Même sur DS, il y a eu vraiment énormément d'abus.
Déjà, les jeux de training, il y en a combien? Parce que moi, j'ai arrêté de compter. Hein. Et j'imagine que dans le lot,
j'ai jamais commencé.
Non, mais j'imagine que dans le lot, doit y en avoir qui sont vraiment super mauvais, développés à l'arrache, tu vois, en disant on s'en fout, de toute façon, ça va se vendre.
C'est ce que va faire EA, pourtant, ils vont faire un clone
de Wii Fit, tu vois. C'est pas prêt de s'arrêter en tout cas. Hein. Mais en tout cas, voilà, le débat est une fois de plus ouvert. C'est un débat intéressant, hein, parce que la Wii, je pense que n'a pas encore montré tout ce qu'elle avait en termes de capacité, que ce soit technique ou ludique, hein, clairement. Et la créativité, c'était un peu la base de cette machine. On verra ce qu'elle nous promettra dans les mois, années à venir. Voilà, c'était un petit peu le point que nous, ici, à la rédaction de Gameblog.fr, on pouvait faire sur l'actualité qui a marqué le mois de février 2009. Vous l'avez vu, hein, pas mal de choses. L'actu reprend clairement. Et ça va pas s'arrêter au mois de mars, hein. Des sorties de très très gros titres, hein, des Resident Evil 5, des Manoirs, on en parlait, ça arrive. Le jeu vidéo continue bien sûr sur gameblog.fr. maintenant, ça y est, vous pouvez vous lâcher dans les forums, commenter à votre manière l'actualité et ce podcast. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine, et puis surtout n'oubliez pas, hein, c'est samedi, ce samedi 7 mars, le rendez-vous avec vous au Loft In Game, vous voir et vous parler pendant la journée, et puis le soir à partir de 20h pour 15 invités VIP, vous aurez la chance d'être dans un prochain podcast de Gameblog. Franchement, je serai vous, je laisserai pas passer cette occasion. Allez, on remercie une fois plus Jean et Chris de nous avoir accompagnés sur ce podcast. Ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir eu parmi nous.
Merci à vous de nous avoir invités.
Te casse pas la gueule non plus, Jean.
ça se rééditera dans les mois à venir. Allez, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur gameblog.fr. Rappelez-vous, hein, premier podcast audio de France. Ça nous fait plaisir. Le jeu vidéo continue. Surtout, portez-vous bien et jouez bien. Ciao, ciao.
Bye.
Bye.